Oui, bah j'arrive.
Oh, Oh, je suis en train de mettre mon sweat.
Raclement de gorge. On arrête la musique. On a une caméra. Je suis en tout petit, c'est normal. Ah. Je suis en pleine forme, comme vous le voyez. Ah, en vrai, les poumons vont mieux, quoi. Attendez, paf, là, on se voit mieux. Petite fraîcheur matinale. 9h21 à Paris. Du coup, j'ai mis le sweat à l'instant. Comment ça va, vous? J'ai eu plein de messages gentils. Genre, ah, oh, ça fait genre un mois qu'on l'a pas vu. Mais en fait, j'ai streamé dimanche dernier. C'est juste que j'étais en question pour un champion cette semaine. Là, on est parti pour une petite séquence où on va pas mal streamer, quoi. Oh, c'est gentil, merci. Vous aussi, vous m'avez manqué. Wasp, merci pour le 20e mois d'abonnement. Le Tri, merci pour le 13e mois. Frenchy Yu-Gi-Oh! Je l'ai maintenant. Merci pour... on en est où? Le 3e mois d'abonnement. Umi Isadis, t'as vu comment je le prononce bien maintenant? Merci pour le 4e mois. Original Pimous, premier à sub ce matin. Merci pour le 13e mois. Swellows Prime, à l'instant. Merci. Nuno 124, merci pour le 6e mois d'abonnement et ce gentil message et cette proposition assez intéressante. Il y a Nuno qui me dit: Papy Sam, à quand des streams Mario Kart avec des invités politiques? Ce serait super. Attends, il faut que je décompose la proposition quand même. À quand des streams? Alors, stream, ça va à peu près. Maintenant, Mario Kart, ouais, carrément, ouais. À la rentrée, on va lancer un grand projet autour du jeu vidéo. À force de le teaser, il faut que je le fasse, hein, je vais être obligé. Et avec des invités politiques. Ah, oui, bon, alors, c'est-à-dire que, comment dire, PLNE, Olvi, merci pour le 11e mois d'abonnement. Wasp, je sais plus, je t'ai remercié, je le refais. Stream Mario Kart avec des invités politiques. Idée, bonne idée. Pas sûr. Salut ma forêt. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Jeux vidéo, ouais. Univers fascinant. Avec des invités politiques. Mais pourquoi faire? Ticlem dit on analysera le choix de leur personnage. Plan Bourbier, me dit H7. Comment on dit le 7? Oh putain, je suis nul, putain. Le 7. H7 Kim, je sais que c'est pas comme ça. Je sais. Il y a Sim qui me dit que la carapace bleue, c'est de gauche, par exemple. T'es sûr que la carapace bleue, c'est de gauche, c'est pas de droite? Très mauvaise idée, me dit Remusège. Ouais, je suis pas sûr, pas convaincu comme ça, mais. Si tu veux finir dans la sauce, enfin ma sauce, me dit Remu. Je sais pas si tu parles de ta sauce ou de la sauce en général, pourquoi pas. Exactement. Oh, faut pas. Il y a Sowat qui part en stage dans une heure à la Défense qui stresse un peu. Faut pas. Ah, là tu me tentes. Il y a GGG Ropaquet qui dit: tu profites, kill les invités politiques. Sois concentré sur le jeu pour leur poser des questions sournoises en douce. Ça, en vrai, c'est pas mal ça. Bien sûr que Joe sera là pour l'hebdo ce soir, évidemment. Comment ne pourrait-il pas être ce soir? Bien sûr. La cabane de l'Islandais, merci pour le 6e mois. Le Carnix, merci pour le 10e mois. Inforéa, mon ami. Allez voir la chaîne d'Inforéa qui fait des choses formidables avec la récupération, la réparation de, notamment de PC qui l'offre après à des assos, à des écoles. Très la classe, quoi. Allez voir Inforéa, comme ça se prononce. I-N-F-O-R-O-A, merci pour le 15e mois. Yoshi Forever 2609, merci pour le 14e mois. Et le gentil message Swillows, merci beaucoup pour le Prime. À nouveau. Hop, qui ce soir dans l'hebdo? Eh, vous me bousculez, là. Je l'ai annoncé sur Twitter, vous n'êtes peut-être pas allé voir. Il faut que j'allume une multiprise, parce que j'ai acheté plein de multiprises. Déjà, celle-là, elle marche, elle est neuve. Je suis content, j'ai acheté. Oh, j'investis. J'étais limite prêt à lancer à 8h30 ce matin, le temps d'arriver au studio de stream, de récupérer la caméra qu'on avait bougée, je ne sais plus où, changer l'objectif, de me rendre compte qu'il y avait une connexion qui ne marchait plus. Mais il faut absolument que chaque setup ait son installation, parce que vous savez que souvent, avec Joe, on a pour les émissions et pour l'émission du matin, eh bien on utilise le même matériel. On monte, on démonte encore un petit peu, voilà, même si on est de mieux en mieux équipé. Et là, du coup, j'ai mis franchement une demi-heure à réinstaller la nouvelle caméra, refaire les réglages, trouver ce qui n'allait pas dans la connexion, etc. Quoi. Donc j'aurais pu lancer beaucoup plus tôt. Je vais rendre totalement indépendant ce setup du matin, ça va être beaucoup plus simple. Pifomètre, merci pour le 17e mois et le gentil message qui est totalement mensonger. Merci encore pour ta charismatique présente sur Twitch. C'est un mensonge, c'est une fausse information, c'est une fausse nouvelle, comme on dit, mais c'est très gentil. Merci beaucoup. J'ai pas la ref, il y a vendredi. Il y a Yissou qui me dit vendredi, samedi, on mange Gucci ici. Pas la ref, pas la ref. On n'a pas cru à l'info, il y a un Samuel Etienne sans certif qui tweet des conneries, on va en parler de ça. On va en parler, tiens, ce matin, il n'y a pas d'article sur la fin de la vraie certification sur Twitter et le fait que maintenant le badge bleu soit uniquement le signe que quelqu'un a acheté, en fait, soit payé pour ce truc. Il n'y a pas d'article ce matin, mais on en parlera ce soir dans l'hebdo Etienne, ça c'est sûr. Merci Coréal pour ce Prime, je suis heureux de vous retrouver aussi. Battle for pour Osefre. Battle for tout le week-end, bel événement caritatif. Pas impossible que je passe une tête dimanche. Voilà. Gros week-end de stream, ce soir l'hebdo Etienne, 20h. Demain soir, l'exposition Etienne, 20h, avec Étoile, en direct du musée du Quai Branly. On va se régaler. C'est d'une beauté incroyable, le musée du Quai Branly, et une exposition temporaire sur les kimonos avec Rayou. On va se régaler. Et puis, pas impossible que je passe une tête dimanche dans le Battle for aussi, depuis les Stades de France. Voilà. Donc, gros week-end de stream pour m'attraper de ces 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, où je n'ai pas pu streamer. Que dis-je ? Ah bah si, j'ai streamé quand même l'intervention du président. C'était quand le... Mais si, en plus j'ai streamé cette semaine. C'était lundi ou mardi C'était lundi, j'ai streamé lundi. Mais c'est fou, mais je n'arrête pas. On a streamé l'intervention, l'allocution, comme on dit, c'était pas une interview, du président lundi soir. Mais qu'est-ce que je stream ? Qu'est-ce que je stream ? C'est fou. C'est fou, ouais. Donc finalement, on stream pas mal. Et là, on est reparti. Donc gros week-end. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, la semaine prochaine, on va streamer. Tous les jours. Ouais, parce que là, je suis en France Info, j'ai pas question pour un champion. Et après, je crois qu'il y aura des vacances. Je crois que je prends des vacances. Et je prends une vraie semaine de vacances avec rien du tout. Oui, j'ai réparé le néon, j'ai mis de la colle. J'ai réparé mon néon avec de la colle. Merci King Julien DBZ pour le 8e mois d'abonnement et le gentil message. Santé mais pas des pieds, c'est un joli pseudo. Merci pour le 9e mois. Coréal, encore merci pour le prime. Quel planning ce week-end. Tu m'étonnes. Ouais, ouais. Non, quoi des vacances. Tu démissionnes. Non, je prends une vraie semaine de vacances. Sans travail et sans stream, rien du tout. Ouais, j'en ai parlé, ouais. Ouais, j'en ai pas parlé encore, Shadok, parce que je trouve que c'est un peu du domaine de l'intime, même si Mathieu... bien sûr, a rendu ça public. Mais puisque tu en parles, il y a Shadow qui nous parle de Mathieu Lartaud, c'est le spécialiste rugby, notamment des antennes de France Télévisions et de France 2. Mathieu Lartaud qui a annoncé sur les réseaux sociaux, en fait, se retirer de l'antenne de France 2. Mathieu Lartaud, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a joué à Question pour un champion, qui est venu dans l'hebdo Etienne pour une spéciale sport il y a quelques mois. Et Mathieu Lartaud qui a annoncé sur les réseaux se mettre en retrait de l'antenne parce qu'il est à nouveau, X années après, atteint d'un cancer, un genou. Voilà. C'est déjà la même maladie qui l'avait empêché de mener une carrière dans le rugby comme joueur et qui l'avait fait bifurquer vers le journalisme. Donc il s'est battu une première fois avec succès contre le cancer, à un genou. Et ce cancer, il y avait, dit-il, 3, 4, 5% de chances qu'il revienne X années après et il est revenu. Voilà. Donc Mathieu se met en retrait. Il y a eu des articles d'ailleurs dans la presse, voilà, pour lui envoyer de la force et du courage. Moi, j'ai pas fait de message sur les réseaux sociaux parce que je trouvais que c'était une affaire entre lui et le public. Je lui ai envoyé un petit message en revanche en DM pour l'envoyer un max de force, quoi. Mathieu, super gars, voilà. Et on ne doute pas de sa nouvelle victoire contre le cancer, mais voilà, n'hésitez pas à lui envoyer de la force. Il a été très touché par tous les messages qu'il a reçus, notamment des confrères, notamment de France Télévisions et je pense aussi du public, voilà. Donc ce serait formidable, quoi. Alors ouais, vous êtes plusieurs comme Olteo à espérer qu'il soit de retour pour la Coupe du Monde de rugby, hein, à domicile en France, voilà. On le souhaite bien sûr, mais c'est un gros combat, quoi. C'est un gros combat. Il y a MMG qui a mis un article dans le chat, un article de l'équipe là-dessus, quoi. Voilà. Donc force à Mathieu, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci Sowat pour le retour sur c'était quand samedi soir, samedi dernier, on a fait cette petite rencontre de 3h, 3h30 quand même avec Inox Tag à la maison. C'est en replay gratuitement sur Twitch et sur YouTube et en vrai, je me suis régalé, c'était sympa. Merci Beginner pour le 7e mois. Merci Game Boy pour les bits. Merci Dante Roche pour le 6e mois. Vous êtes super. Merci pour le soutien. Allez, je vous lis un petit peu, puis on démarre. J'ai quelques articles à vous montrer. Pas un milliard d'articles, mais sur des infos que je trouve essentielles. On va à l'essentiel. Je lis tous les journaux pour vous le matin. Tous. Pour que vous ne puissiez pas me dire « Ah, mais t'as pas vu ça, tu n'en parles pas. » J'ai vu. Après, je fais des choix. Bien sûr, c'est très subjectif. L'idée étant de vous donner envie de lire le journal et d'aller plus loin que ce que je peux vous en raconter. Mais non, Fouinas, tu n'arrives pas à la fin du live. Tu arrives au tout début. On n'a même pas fait le sommaire encore. Ouais. Voilà. The French Defense, t'as l'air tellement relax, super frais dès le matin, c'est quoi ton secret ? Le café essentiellement, et le fait que j'ai décrété il y a très longtemps que je ne ferais dans ma vie que des trucs cool. Voilà. Enfin, professionnellement, alors au début, on va bosser où on peut, hein. On choisit pas forcément les endroits, c'est bien normal, il faut un petit peu rouler sa bosse, se faire sa petite expérience. Mais une fois ceci fait, voilà, et ayant travaillé pas forcément dans des rédacs où j'avais forcément envie de bosser, sur des projets éditoriaux, pas forcément j'avais envie de bosser, mais au début il faut bien apprendre son métier. Une fois que j'ai fait ça, j'ai décrété assez tôt, on va dire au bout de genre 2 ans quoi. Ouais, je dirais au bout de 2 ans, assez vite. Bon, maintenant, tu ne fais que des trucs qui te font triper, voilà. Alors, c'est une forme de luxe que je me suis offert, voilà, en parfois refusant de travailler sur des trucs qu'on me proposait qui pouvaient être, en termes de, je sais pas, moi, de promotion, d'avancement, même financièrement intéressant. Mais très vite, en fait, je me suis dit, ok, c'est un métier plaisir, c'est un métier magique, qui est le métier que je me suis choisi, qui est le journalisme. Et donc, allons au bout du truc, quoi, voilà, que ce soit vraiment un truc de plaisir. Avec ce pari qui était... le plaisir étant un moteur très puissant, en ayant beaucoup de plaisir dans ce que tu fais, tu vas pas mal travailler en fait sans trop t'en rendre compte. Et puis finalement, il est pas impossible que ça fonctionne quoi. Voilà. Et c'est un pari que j'ai fait il y a très longtemps, voilà, qui m'a fait au début régulièrement changer d'aventure, quitter des trucs, tenter de nouveaux trucs. Et voilà. Et donc du coup, je suis arrivé à une espèce d'état de sérénité où quand vous me voyez faire un truc depuis longtemps déjà. Quand vous me voyez faire un truc, c'est que je le valide à 100% et que j'assume totalement et que je travaille avec des gens avec qui éditorialement, intellectuellement et affectivement, je me sens vraiment très bien. Et quand il y a des trucs qui n'est pas réuni, je m'en vais, je me barre. Voilà. Donc quand vous voyez dans un endroit, que ce soit à France Info, à Question pour un champion ou Twitch, bah, c'est parce que je kiffe en fait. Voilà. Et donc le secret bah, de la bonne humeur, en fait, il vient de là, c'est que juste tout ça ne me coûte pas beaucoup. Et le plaisir, il vient notamment de nos échanges, comme ici, quoi. Voilà. Donc, c'est pas un mauvais calcul, en fait. Paradoxalement, on peut dire que le plaisir n'a pas forcément voix au chapitre dans le travail. On se dit, ah, on dit, le travail, ça doit être dur, ça doit être compliqué, et c'est pas forcément agréable. En fait, moi, je crois que, à l'inverse, le pari du plaisir, il peut être super payant. Voilà. À condition, d'après, d'envoyer un petit peu du bois, quoi. Quand même, ça, il ne s'agit pas de, voilà, de se laisser... De se laisser vivre et de se la couler douce quoi. Mais en vrai le plaisir faisant que du coup ça te coûte pas beaucoup en termes d'effort, y compris si tu te lèves à 2h du mat, du coup tu vas pas mal bosser en fait sans te rendre compte. Et si tu bosses beaucoup, bah en fait en général ça marche quoi, c'est quasi mathématique quoi. Voilà. Bon, après ce n'est qu'un principe de vie et après à chacun de trouver sa petite recette quoi. Voilà. Bien sûr, Ayn, le replay avec Inox, il est dispo sur Twitch, sur ma chaîne et sur ma chaîne YouTube, gratuitement. Gratuitement. Allez, bon, on va faire un petit sommaire, je crois. Ah, j'entends les travaux, là. Si vous entendez trop de bruit avec les travaux derrière, vous me dites, j'irai fermer la petite fenêtre qui est à côté. Tu cours combien de fois par semaine, me demande HB. Très bonne question. Parce que j'ai fait une vraie pause de sport. J'ai fait du sport quasi quotidiennement pendant 20 ans, on va dire. Course à pied essentiellement, vélo, natation, quand j'ai fait un peu de triathlon. Et c'était un vrai truc, un vrai pilier de vie, une vraie hygiène de vie qui m'a accompagné très longtemps, qui m'a donné de la force, de l'endurance. Et puis, mon emploi du temps de cette année, entre Question pour un champion, France Info et Twitch et les enfants, a été tellement intense que depuis septembre, J'ai fait un truc que j'ai jamais fait en 20 ans, c'est que j'ai arrêté le sport. Totalement. Je suis passé de tous les jours à rien. Parce qu'en fait, je ne trouvais plus le temps et j'étais au minimum sur le sommeil. Et donc, j'ai fait un truc un peu bizarre d'arrêter le sport. Je sentais que c'était pas très bonne idée, en fait. Et effectivement, au bout de quelques mois, donc là, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, on va dire presque 8 mois, bah, en fait, j'ai vu hein, la capacité respiratoire qui baisse, hein, le souffle un peu plus court, un peu moins d'endurance, voilà. Le plaisir des endorphines, voilà, le petit plaisir du sport qui aère un peu la tête qui a disparu. Heureusement que tout le reste est un kiff, mais j'ai senti que, surtout au niveau du corps, ben, forcément, je perdais quoi. Et donc, j'ai repris. Voilà, j'ai repris. Alors, c'est pas toujours facile, mais là, par exemple, cette semaine, j'avais que Question pour un champion, j'avais pas France Info. Bon, ben, au lieu de mettre le réveil à 6h, je le mettais à 5h. Et puis, j'allais courir 1 heure. Voilà, donc, je suis content. Donc, voilà, je suis en train de reprendre doucement. Pas pour revenir au niveau que j'avais avant, mais au moins pour retrouver un petit peu l'équilibre que le sport m'a donné, quoi. Voilà. Donc le grand raid de la Réunion, pour répondre à Uni Krakoun, je n'ai absolument pas niveau, plus niveau, et je crois que je ne l'aurai plus jamais, de toute façon. Même si c'est une course qui m'a fait rêver. Voilà. Donc retour du sport, ouais, c'est une des bonnes dispositions de l'arc, quoi. Captain Flemme, ou Cap Flemme, merci pour le 12e mois. Chemical, what the fuck, merci pour le 20e mois. On ne peut pas être abonné depuis plus longtemps que 20 mois, c'est impossible. Merci beaucoup pour ce soutien depuis toujours. Titus Pam, merci beaucoup pour le gentil sub et pour le message. Très, très sympa. Merci. Friketosaur, j'espère que tu vas bien. Merci pour le 10e mois d'abonnement. Et le gentil message. Beginner, merci encore pour le 7e mois. Voilà. Voilà. Donc le sport, c'est reparti. La course à pied, hein. Je reprends pour la course à pied. Matijou, j'avais pas vu. Merci à toi. Merci. Donc le sport, c'est reparti. Ouais. Ah, le marathon des sables, ça c'était quelque chose. Ouais, Klamakine. Ouais. Bah voilà. Loulox, je pense que tu n'es pas très ancien sur cette chaîne. Je ne joue pas trop aux jeux vidéo. Enfin, si, j'ai joué, mais la dernière fois c'était en 1988. Mais je compte m'y remettre parce que je fais ce constat que je crois qu'on ne peut pas comprendre tout à fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui sans s'intéresser aux jeux vidéo ou en jouant ou en s'intéressant à sa dimension culturelle et ou économique. Voilà, je pense que c'est trop important aujourd'hui et c'est un univers trop riche pour ne pas s'y intéresser, surtout quand on est journaliste. Donc à partir de la rentrée prochaine, je vais essayer de mettre en place un rendez-vous sur le jeu vidéo ici, dont qui reste à définir un petit peu, mais donc je vais m'y remettre en amateur, bien sûr, et en explorateur, voilà. Et l'e-sport, je suis un petit peu, mais je suis pas un grand spécialiste d'e-sport, même si j'essaie de lire ce que je trouve là-dessus, c'est encore un continent à explorer pour moi. Voilà. Oui, j'ai vu pour Blanche Gardin, Barbe Rouge, j'ai vu. Excellent. Une queen... Blanche Gardin. L'UOA, merci pour le 17e mois d'abonnement, merci à toi. Marcus, ouais, une rencontre avec Marcus, ça pourrait être une idée. Tout à fait. Bon, les amis, j'ai envie d'aller très très vite ce matin. On pourrait discuter pendant des heures, mais je pense qu'on pourrait aussi lire quelques articles. Êtes-vous OK pour un petit sommaire, c'est-à-dire en 5 minutes? Je vous montre les articles dont on va parler ce matin que je vais vous lire. J'attends un petit go de votre part et puis c'est parti. Jean me dit oui, ça vaut pour un go. Oui, 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 oui. Non, j'irai pas à TwitchCon. Parce qu'en juillet, je serai pas du tout à proximité géographique. Donc je pourrais pas y participer. Dommage que j'aurais bien aimé. Prêt ? Non, j'ai pas fait la Diag et j'ai pas fait l'UTMB. Je fais assez peu de montagne. J'ai fait le marathon des sables 2 fois. J'ai fait quelques courses au-delà du 100 km, mais j'ai pas fait ces courses de fou et j'en aurai jamais le niveau. Par contre, j'ai fait un petit peu de triathlon, j'ai fait un petit peu d'Ironman. J'en ai fait 3. Mais je pense que j'en ferai plus maintenant. Voici le petit sommaire. Vous allez voir, regardez. Je vous ai pas mis 1000 articles de côté. Hein, mais par contre, je suis allé trouver des articles qui me semblaient importants. Sur des actus qui me semblaient importantes. Donc j'ai lu tous les journaux ce matin, mais vous voyez que par rapport à d'habitude, je vous ai plutôt mis moins d'articles. Voilà. Y a des matins comme ça, il y a des journaux que j'ai lus intégralement. Le Parisien, par exemple, c'est rarissime que je trouve pas dans le Parisien à vous lire. Bah, ce matin, j'ai lu le Parisien et je vous ai mis zéro article de côté. Moi, je crois que c'est arrivé deux fois en deux ans et demi. Voilà. C'est pas que rien n'est intéressant, il y a plein de choses intéressantes, mais je sais pas, j'ai pas trouvé d'article qui faisait vraiment la différence ou d'actualité qui me semblait vraiment essentiel. L'horoscope, bien sûr. Bien sûr qu'on dirait l'horoscope. Bien sûr. C'est parti. Le Monde, alors à l'inverse, Le Monde, la dernière édition du Monde, il y a des jours où je ne vous lis pas Le Monde parce que j'ai envie de. Il n'y a rien que j'ai envie de mettre en avant. Là, par contre. Le Monde me semble extrêmement intéressant. La dernière édition qui est donc sortie hier après-midi. Dans Le Monde, on ira voir par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, je ne suis pas sûr que c'est une info qui ait fait la une, ça. Aux États-Unis, il y a Fox News, la chaîne d'info Fox News, qui a pris une amende, je ne sais pas si. Moi j'ai l'impression que personne n'en a parlé, de 787 millions de dollars. Voilà. Il y a quelqu'un qui me dit 750 millions, c'est peut-être en euros. Hein. 787 millions de dollars. Je vois que vous êtes informé. Bravo. Une amende de 787 millions de dollars. Pourquoi ? Parce que pendant la campagne, la dernière campagne présidentielle aux États-Unis, voilà, Fox News, précisément, a accusé une entreprise, l'entreprise de machine à voter électronique, qui s'appelle Dominion Voting System, d'avoir falsifié les résultats du scrutin présidentiel qui ont amené à la victoire de Biden. Vous savez, ça, c'était un argument du camp Trump et des partisans de Trump, hein, que, en fait, l'élection avait été faussée et notamment que le vote électronique avait été faussé. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, dans une démocratie qui fonctionne, avec des médias qui fonctionnent et une justice qui fonctionne, en fait, normalement, on ne peut pas dire n'importe quoi. Et la bonne nouvelle, c'est que, donc c'était faux, bien sûr, l'élection n'était pas truquée, contrairement à ce que pense toujours Trump d'ailleurs, mais comme Fox News l'a relayé et l'a affirmé, eh bien, ils ont payé 780 millions de dollars. Ce qui est très très drôle, c'est que la boîte en question, la société qui va toucher ce chèque, elle fait un chiffre d'affaires d'à peu près 17 millions de dollars par an. 17 millions de dollars par an. Voilà. On va en parler du fait que c'est un deal, en fait. C'est encore pire, en fait. Quelqu'un me dit, ils ne vont pas faire appel. Tu vas voir pourquoi ils ne vont pas faire appel. Donc, la boîte en question, elle fait 17 millions de chiffre d'affaires par an et elle va toucher un chèque de 787 millions de dollars. Quelqu'un me dit, ce n'est pas une amende, c'est un deal. Ouais, exactement. Et c'est encore pire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont même pas allés au procès. Fox News avait tellement peur d'aller au procès, tellement peur que les présentateurs, que les responsables de la chaîne aient à témoigner devant un tribunal avec tout ce que ça allait impliquer en termes d'image, qu'ils ont préféré faire un chèque. Ils ont fait un chèque. Ils ont fait un chèque avant le procès pour éviter le procès. Donc il n'y aura pas d'appel parce qu'il n'y a pas de décision de justice. Les amis de Naotech, merci. Allez voir la chaîne Naotech, Naotech Team, l'excellente chaîne d'actualité de la tech sur Twitch et sur YouTube. Merci pour ce gentil raid. Amine Naotech, on était en train de parler du chèque de 780 millions de dollars que Fox News a accepté de faire à la boîte qu'ils avaient accusé d'avoir truqué les élections, la dernière présidentielle. Voilà. Et on était en train d'expliquer qu'il n'y aurait pas d'appel, puisqu'en fait, ce n'est pas allé en justice. Ils ont eu tellement peur d'aller au procès qu'ils ont fait un chèque de 780 millions de dollars. On lira ça tout à l'heure. C'est juste ouf. Et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui se battent contre les fausses informations. Ça veut dire que c'est des combats qui peuvent être gagné. C'est vachement intéressant, quoi. Dans Le Monde toujours, qui est une très bonne édition, l'édition qui est sortie hier, le retour sur les déplacements un peu compliqués du président Macron actuellement. Hein. Voilà, vous savez qu'on est dans une situation sociale et politique tendue, voilà, depuis que la réforme des retraites a été promulguée, voilà, après l'adoption par 49.3, et le président Macron, un peu bravache, a dit « mais moi je vais quand même aller sur le terrain, je vais continuer à aller voir les Français ». Et ça se passe, c'est un peu tendu, un peu beaucoup tendu. Voilà. Donc on lira cet article du Monde pour voir où on en est. Macron pris à partie en Alsace, l'impossible apaisement sont des mots assez forts dans un journal Le Monde qui fait assez attention aux mots. Et on en parlera ce soir, je crois que la question que je pose ce soir dans l'hebdo Etienne avec mes invités, je vais vous présenter les invités dans un instant, c'est, je l'ai sous les yeux, Macron peut-il tenir ? C'est très tendu. Dans ce contexte-là, où une partie très importante des Français lui témoigne leur défiance, voilà, sinon leur colère, est-ce qu'il peut tenir, voilà, continuer à présider dans ces conditions qui sont des conditions extrêmement difficiles. C'est une question qu'on posera ce soir et, avec laquelle on, sur laquelle on se penchera avec vous et avec mes invités. T-Burns 9, merci pour le 5e mois d'abonnement. Les amis de Naotech, merci encore pour le raid. On lira cet article. Ah, hier, le président Macron, toujours lui, qui est une, évidemment dans la 5e République, qui est une personnalité centrale, qui impulse notamment l'activité de l'exécutif, sinon toute la vie politique de notre pays, le président Macron a fait des annonces en direction des profs. Le temps de travail des profs, l'éternelle suspicion, le pacte de Macron qui propose une augmentation contre de nouvelles tâches heurte la profession. Donc le président Macron a fait des annonces hier, on verra grâce à un article que je vous ai mis de côté dans le Figaro, dans la Croix, je ne sais plus, qui a deux, il y a deux parties dans ces annonces d'augmentation salariale pour les enseignants, une partie fixe pour tout le monde, enfin un socle voilà, qui va aller aux enseignants, et puis une partie variable en fonction des missions qu'ils vont accepter de faire en plus. Et ça, ça fâche les profs, justement parce que eh bien, on, ça nous emmène sur l'éternel débat sur le temps de travail des profs. Vous savez, vous connaissez, vous avez sûrement un tonton qui dit au soir du réveillon, après l'apéro, « Ah, les profs, les vacances, vous savez. » Puis un peu plus tard, c'est tas de feignants. Enfin, voilà, ce genre d'arguments sympathiques sur les enseignants. Ce qui est méconnaître la réalité du travail de professeur. Voilà, qui ne se limite pas, loin s'en faut, au temps passé en classe. Donc c'est un débat qui est vachement intéressant. Et justement, il est éclairé par ces annonces du président Macron et par les réactions des enseignants et des syndicats. On va se pencher à la fois sur les annonces et puis sur justement la réalité du temps de travail des enseignants. Voilà, ça c'est un sujet vachement intéressant. Alors, pour le coup, moi j'ai enseigné une année. Alors, j'étais pas dans l'éducation nationale, mais j'ai eu une expérience intéressante en tant que journaliste où j'ai enseigné une année dans une école de communication. Et là, je me suis rendu compte à l'époque de la réalité du métier de prof. Là, j'ai compris plein de choses. Voilà. Donc, je partagerai cette petite expérience avec vous. Juliane STG, j'espère que tu vas bien. 20 mois d'abonnement, on est au max. Je vois qu'il y a des anciens dans le chat, on vous fera coucou. Donc, le Parisien, des choses intéressantes dans le Parisien ce matin, notamment un truc sur le fait que l'armée a beaucoup de mal à recruter en France et encore plus à garder. C'est encore pire. Ils ont du mal à recruter et les jeunes qu'ils recrutent, ils s'en vont très vite. Voilà. Donc, c'est à dire dans le Parisien. Je ne vous l'ai pas mis de côté, mais si la question de militaire vous intéresse, voir si vous êtes intéressé par une carrière militaire, allez voir, le dossier est bien fait. Mais je ne vous l'ai pas mis de côté, j'aurais pu, mais je ne l'ai pas mis de côté. Donc on ira un petit horoscope dans le Parisien quand même. Je vois plein de messages intéressants, mais comme on est dans le sommaire, je ne vous lis pas tous, je vous lirai tout à l'heure. Le Figaro justement éclaire les annonces du président Macron en direction des enseignants, annonce froidement accueillie, donc on lira Le Monde et Le Figaro là-dessus. Et puis, bah, obligé de parler un petit peu du premier vol d'essai de la fusée géante de SpaceX. J'ai cherché l'article le plus clair, le plus complet sur la question, donc j'ai lu plusieurs articles ce matin. C'est dans Le Figaro que j'ai trouvé ça plutôt clair, voilà. Mais je pense que vous allez m'apporter plein d'autres infos. Je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent bien ce sujet. On parlera donc de SpaceX et de cette explosion. Alors, est-ce que c'est un échec ? Un semi-échec, voire pourquoi pas une réussite, en mode les enseignements de cette explosion vont être tirés, et c'est tout à fait normal dans un processus, on en parlera tout à l'heure. Merci petit Lucky pour le 5e mois d'abonnement, c'est gentil. La Croix, ah, pareil, plusieurs articles dans la presse de ce matin sur des expulsions massives à venir à Mayotte. Alors j'ai cherché ce qui semblait être le meilleur article pour vous en parler. Il y en avait dans le Figaro, il y en avait je ne sais plus où. Je vous ai mis une page dans la Croix qui me semble bien faite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'expulsion massive qui se prépare à Mayotte? On ira voir ça. Béné85, merci beaucoup pour le très gentil message. 13e mois, ça fait beaucoup. One Shot, merci pour le 18e mois d'abonnement. Merci à tous les deux. Voilà, vous avez vu? Pas 1000 articles, mais comme tous ces sujets, Mayotte, SpaceX, la fusée, la question du salaire et du temps de travail des profs et la position du président Macron aujourd'hui et puis la petite histoire aussi sur Fox News, tous ces sujets me semblaient assez intéressants, donc je voulais qu'on prenne le temps et pas passer d'une info à l'autre trop vite, quoi. Donc je pense que ça nous prend un petit peu de temps. Oui, si, je lis Mediapart de temps en temps. Alors pour répondre à Texto Rexel, qui est une très bonne source d'information, qui a un gros travail d'enquête, une vraie indépendance. C'est un Mediapart, c'est un média intéressant. Après, moi, je privilégie, pour des raisons de temps, à la fois de lecture et de stream, la presse quotidienne nationale. C'est-à-dire que je pourrais vous lire les magazines, je pourrais vous lire la presse en région, que je lisais beaucoup aussi au début. Mais après, voilà, c'est un problème de temps, à la fois pour la lecture et surtout pour le stream. Là, on fait des streams de 2h30, 3h30 pour la revue de presse. Et donc, j'ai fait des choix. Et comme je kiffe assez la presse nationale quotidienne, qui en plus a l'intérêt d'apporter des regards différents selon que vous lisez l'Humanité, Libération, La Croix, Le Figaro, L'Opinion, Les Échos, Le Monde, Le Parisien, etc., des regards différents, des sensibilités différentes sur l'actualité, ce qui permet de multiplier les regards, les points de vue, et ce qui me semble important en fait pour approcher au plus près de ce qui peut être une forme de vérité, en tout cas d'information la plus fiable possible. Donc je fais des choix, et donc je lis pas la presse magazine, je lis moins la presse régionale que je ne l'ai lue alors qu'elle est excellente, et je ne lis pas Mediapart au quotidien alors que c'est un très bon site d'info, mais il y en a plein d'autres. Voilà. En revanche, libre à vous bien sûr d'aller frotter vos cerveaux et votre curiosité à toutes ces excellentes sources d'informations. GG, GG à toi, merci pour le 5e mois d'abonnement. Merci. Il y a Sarah qui nous écrit. Oh purée, je suis assise à côté du sosie de François Hollande dans le train. Et si c'était lui ? 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 C'est drôle, il y a Texto Rexel qui a renouvelé l'abonnement cadeau de Yann et c'est pas dans mes alertes. C'est bizarre, j'ai pas tout. Belle, donc désolé, il y a peut-être des subs que je rate. Belle Da 2, je ne t'ai pas raté, merci pour le Prime. C'est peut-être François Hollande, hein. Merci GG pour le message. Voilà, comme le dit Texto Rexel, Mediapart, c'est un super média de fond, mais moins pour le quotidien. Voilà. C'est aussi pour ça que Mediapart ne fait pas forcément partie de ma revue de presse au quotidien. C'est qu'ils sont moins sur l'info au jour le jour. Et comme on essaie d'être là tous les matins, l'idée, c'est de suivre l'actualité au jour le jour avec les journaux. C'est vrai, c'est vrai. Mister Cruxiaux nous dit « Dommage qu'on ne parle pas de l'armée de terre et ses désertions. » J'aurais pu vous mettre l'article de côté. En même temps, je te le signale, et c'est à lire dans Le Parisien. Donc, un petit clic, tu télécharges, ça va te coûter 1 euro des brouettes en téléchargement. Si t'en intéresse, en vrai c'est pas cher quoi, parce que l'article est vraiment bien fait quoi. Ronan, merci pour le abonnez-vous, c'est gentil. On parle pas de Twitter, alors Baguette Boy, si, bah tiens, si Baguette, je vais te faire plaisir, tiens, on va parler de Twitter. Alors pas avec un article, parce qu'en fait, comme on s'est rendu compte hier soir qu'effectivement, attends, je vais fermer la fenêtre là parce qu'il y a un marteau piqueur là. Bougez pas les amis. Et hop, plus de marteau piqueur. Alors comme on s'est rendu compte hier soir de quoi, bah que c'était fini, ça y est, Musk l'avait annoncé, Elon Musk, fini la certification traditionnelle, la vraie certification des comptes Twitter, la certification qui disait, bon voilà, il y a une petite pastille bleue, il y a un badge bleu, ça veut dire que la personne qui vous parle, elle est bien la personne qu'elle dit qu'elle est. Voilà, une vraie certification. Hein. Pour choper la certification Twitter, même certains gros comptes peuvent en témoigner, n'ont pas réussi à l'avoir, c'était assez compliqué, sinon un vrai chemin de croix. Donc on s'est rendu compte hier soir que ça y est, ça sautait, voilà. Donc maintenant, il n'y a plus de vraie certification Twitter badge bleu. Le badge bleu, aujourd'hui, il veut dire un seul truc, il veut dire que la personne a payé. Donc, ça peut être n'importe qui, elle peut vous dire « je suis François Hollande », avec une belle photo de l'ancien président, et puis c'est pas le François Hollande, voilà, ça ne certifie rien, ça certifie juste que la personne a payé quelques euros, quelques dollars à Elon Musk, c'est tout ce que ça veut dire. Donc il n'y a pas d'article ce matin là-dessus, je pense qu'il y en aura demain, voilà. Mais du coup, sachez que les journaux de presse écrite, bon, bah, à un moment, il faut aller à l'imprimerie, quoi. Et c'est bien d'ailleurs, à un moment, c'est une petite pause, bon, il y a 24 heures de pause entre deux quotidiens, et donc cette info, en fait, les journaux n'ont pas pu en parler parce que c'est tombé un petit peu tard, je pense. Mais je pense qu'il y aura des articles demain. Alors, moi, j'ai fait un tweet ce matin qui, en gros, dit ce que je viens de vous dire, Voilà, hop, j'ai fait un tweet. Non, c'était hier soir d'ailleurs, quand j'ai constaté effectivement que l'assertif, et notamment m'assertif, avait sauté. Donc j'ai écrit ça hier soir. On va voir à quelle heure c'était. Hier soir, donc il était quelle heure? 9h38, 21h38. Et donc j'ai écrit hier soir, terminer la véritable certification Twitter. Le badge, vous avez vu, j'ai plus le badge, hein, ne signifie désormais qu'une chose, que la personne a payé pour l'obtenir. D'ailleurs, j'aurais dû écrire le badge bleu, parce qu'il existe encore des badges qui veulent dire quelque chose. Le badge doré, le badge gold, c'est pour les institutions, pour les entreprises qui sont reconnues en tant que telles et qui ont payé par ailleurs, donc c'est assez cher, je crois que c'est 1000 dollars. 1000 dollars par mois, je crois. Un truc comme ça. Mais c'est une vraie certif. C'est-à-dire que c'est une vraie entreprise, quoi. Ah, il y a quelqu'un, il y a Salika qui me dit, tiens, j'ai vu que France Info n'avait pas de badge. Peut-être. On va aller voir. Ouais, tiens, c'est intéressant. Ben voilà. Donc, France Info a pas payé son badge. Voilà. Si on va sur Twitter, si on se promène, bien, vous allez voir, bon, bah là. Vous allez voir, bon bah Julien Pin, le confrère de France Info, il a plus son badge. Pépé Garcia, je pense qu'il avait un badge, il a plus son badge. Monsieur Poulpe, mon ami Monsieur Poulpe, qui va revenir bientôt dans l'hebdo Étienne, j'ai perdu ma certif, je suis tout nu, il a perdu son badge, voilà. Voilà. Alors, bah, l'ami Zach, par exemple, Zach Nani, qui est venu à la maison déjà, bon bah là, il a un badge, mais c'est pas un badge d'entreprise, c'est pas un badge. Gold, donc c'est un badge bleu parce que Zach. Alors certains ont, donc Zach a payé, mais certains aussi expliquent qu'ils ont payé pour voir ce que ça donnait, ce que ça donnait, si ça donnait des avantages, si ça fonctionnait ou pas, quoi. Donc c'est le cas de Zach. AlphaCast qui vient ce soir, il a plus son badge, vous voyez. Si on, bon, si on descend, Jean Massier, il a perdu son badge. Inox, l'ami Inox, je pense qu'il avait un badge, Inox. Il a presque 3 millions d'abonnés sur Twitter. Il a plus de badge. Il a plus de badge. Bon, vous avez compris le principe, quoi. Hein, Papsan, il a plus son badge. Voilà. Après, certains l'ont. Jérôme Colombin, bah, Jérôme Colombin, c'est un journaliste, hein, spécialisé du numérique. Bon, bah, Jérôme, il paye son badge, par exemple. Voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'en revanche, si vous allez dans les médias, si vous tapez, si on tape, est-ce que Libé a payé, par exemple, Libé? Je tape comme un cochon. Hein. Est-ce que Libé a payé? Libération a pas payé. Voilà. Faisons un petit jeu. Tiens, essayons de trouver un média qui a payé. Tiens, voilà. Alors, le Figaro a le badge gold. Voilà. Donc ça veut dire deux choses, que le Figaro a payé les au moins 1000 par mois, là. 1000 dollars, 1000 euros, je sais pas. Mais c'est un vrai badge de certification, c'est-à-dire que ça ne suffit pas de payer. Ça ne suffit pas de payer, c'est un vrai badge normalement qui est donc réservé aux entreprises, aux organisations. Et là, je pense qu'il y a une vérification, quoi. Je sais pas, on peut aller voir. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? Est-ce que le Parisien a peut-être payé, le Parisien? Le Parisien n'a pas payé. Ok, le Monde a payé. Oui, c'est intéressant, hein. C'est marrant que le. Ouais. Ah, le Monde a payé. Voilà, le Monde a payé. Voilà. Et après, les médias qui ont le badge gold là peuvent permettre à leurs salariés présents sur Twitter, moyennant un petit supplément de l'ordre de 70, je crois, dollars ou euros par mois, eh bien, pour chaque salarié, voilà, Tanazak nous dit 1500 euros plus 70 per user, et en fait, d'avoir le badge aussi. Si, ça veut dire qu'ils ont payé, King Julian. Pour avoir le badge gold, il faut payer. C'est une certification, mais il faut payer. Avec Musk, maintenant, il faut payer. Aucun de ces badges que vous voyez, bleu, gold, je crois qu'il y a même gris, il faut payer. Il faut payer. Je sais parce que, par exemple, France Télévisions, ils sont en réflexion là-dessus. Moi, j'échange avec les équipes chargées du numérique sur France Télévisions, donc qui sont au courant et qui savent très bien qui connaissent les nouvelles règles du jeu et ils savent qu'il faut payer. Donc, le gold, il faut payer. Il faut payer. L'idée, c'est que monsieur Elon Musk veut rentabiliser son investissement, quoi. Et puis en plus, tous les annonceurs sont partis, la pub est partie à 70%. Vu que Twitter devenait un peu une dinguerie, il y a plein de marques qui ne veulent plus associer leur image à Twitter. Et donc, Twitter a perdu beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Voilà. Voilà. Donc c'était pas tellement une surprise en fait. Voilà. Ouais. Donc, hop, je reviens à mon tweet. Donc, j'ai posté donc ça hier soir et je retweetais un petit truc ce matin. Voilà. Terminer la véritable certification Twitter. Le badge, j'aurais dû dire bleu. Le badge bleu ne signifie désormais qu'une chose, que la personne a payé pour l'obtenir. Ça, c'est super clair. Un progrès pour lutter contre la propagation de fausses nouvelles. Je pense que vous avez la réponse, puisque moi, mon sentiment là-dessus, mais je vais en parler avec vous, c'est que l'ancien système était loin d'être parfait, loin de là, hein, mais il avait le mérite de faire un lien entre le badge bleu et une véritable identité. Hein. C'est-à-dire que pour avoir le badge bleu avant, il fallait vraiment démontrer que tu étais qui tu prétendais être. Voilà. Donc c'était pas terrible, mais c'était déjà ça. Ça n'existe plus, puisque maintenant, il suffit de payer. Et donc, bah, tu peux te faire passer pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème sur la propagation de fausses nouvelles. Alors, j'ai eu quelques réactions assez intéressantes en mode « Ouais, comme si le fait de, avant d'être certifié... » Tenez, hop, je vais vous montrer un tweet qui résume un peu le sentiment de certains. « Ah oui, parce que compte certifié égale détenteur de la vérité, c'est vrai. » Bah non. Bien sûr que non. Évidemment que non. C'est pas parce que tu as un compte certifié avant, le vrai, que tu racontes pas de la merde, pour dire les choses. Gims, je sais pas, Gims sur Twitter, il a un compte Twitter, Gims. Vous savez, l'électricité, les pyramides, tout ça. Il l'a plus. 3 millions d'abonnés, je pense que c'est lui. Donc, je pense qu'il était certifié avant. Il a quand même raconté que les Égyptiens avaient l'électricité, quoi. Pour ceux qui sont encore un peu de l'histoire. Et donc, c'est pas parce que t'avais un badge que tu racontais pas des carabistouilles. Bien sûr. C'est pas ça que je dis. Donc, du coup, j'ai retweeté ce tweet en disant en disant ceci. Ce n'est pas ce que je dis. Compte certifié avant. Vous saviez juste qui vous parlait. Un compte certifié peut évidemment vous raconter n'importe quoi, Gims, mais vous savez qui est l'émetteur. Vous savez qui vous dit éventuellement de la merde, hein, pour dire les termes à un moment, quoi. Voilà. Vous savez qui est l'émetteur, donc vous pouvez l'interpeller, vous pouvez le contredire, vous pouvez lui demander de rendre des comptes, vous pouvez même éventuellement le poursuivre en justice. Et ça, c'est la base de l'information. Savoir qui vous parle, c'est la base. Savoir qui vous donne une info, c'est la base. Quand vous voyez une info qui vous semble séduisante, pertinente, intelligente, très bien. Mais si vous ne savez pas qui vous donne cette info, vous pouvez... elle ne vaut rien. Parce que vous ne pouvez pas remonter à la source, quoi. Donc vous devez savoir qui vous parle. Toujours, c'est la base de la base de la base. Et ça n'existe plus sur Twitter. Qu'est-ce que va devenir Twitter ? Ça, maintenant, c'est la création. Je vous lis là-dessus et puis on enchaîne avec les journaux. Très inquiétant, dit Francis. Toc. Toc. Je remercie le dernier sub. Paul Position, merci pour le 6e mois d'abonnement. Merci pour vos subs. Alors, c'est pas pour ça que je vais m'abonner au badge bleu. Hein. Moi, j'ai... Puisque certains m'ont posé la question, je n'ai pas prévu de payer pour le badge bleu, pas parce que j'ai pas envie de payer, parce qu'en vrai, je pourrais payer, c'est pas le problème. C'est juste que ce badge bleu ne vaut plus rien. Et comme le dit John à l'instant, ça met tous les utilisateurs à un niveau de crédibilité égal à zéro. Le problème, c'est que ce badge bleu aujourd'hui ne veut plus rien dire, puisque vous pouvez, en tant que... Moi, quand je suis sur Twitter, je suis Samuel Etienne, je suis pas... Je ne suis pas Polo du café d'à côté, quoi. Qui en fait n'est pas Polo, s'appelle Sophie, et pas au café à côté. Et en fait, elle est dans un autre café, et puis ça se trouve, n'est même pas une vraie personne et un faux compte, quoi. Donc, moi, je n'avance pas masqué sur Twitter. Donc, je pourrais faire certifier ça. Mais cette certification, elle ne vaut rien. Puisque n'importe qui peut la prendre en se faisant passer pour n'importe qui. Voilà. Donc, aucun intérêt, évidemment. C'est pour ça que je ne paierai pas pour ce badge, puisqu'il n'a pas de sens. Voilà. C'est pas tant l'argent qui m'embête, c'est que ça n'a pas de sens. Après, attention, si demain France Télévisions, France Info paye le fameux badge gold, qui est un badge de vraie certification d'entreprise ou d'organisation, et ensuite décide d'en faire profiter ses salariés, moyennant un coût, du coup... je vais profiter de la certification de France Télévisions ou de France Info, vous voyez, et là ça redevient une vraie certif. Dans ce cas-là, j'accepterai ce badge. Voilà. Mais aujourd'hui, France Télévisions n'a pas, à ce jour, décidé de payer. Peut-être qu'ils vont le faire. Peut-être qu'ils vont le faire. Voilà. Alors, je remonte dans vos questions. C'est donc techniquement possible de créer un compte Samuel Etienne avec certif où le nom est déjà pris. Non, bien sûr. Chez un GPT, si tu veux créer un compte Samuel Etienne avec une certif que tu vas payer, c'est sans problème. Bon, après, tu vas avoir 12 abonnés ou 50 ou 200. Et moi, je ne sais pas combien j'ai d'abonnés sur Twitter. Et moi, j'en ai... Combien j'en ai aujourd'hui 371 400. Donc, évidemment, quelqu'un qui a un petit peu du nez va se douter, mais sans en avoir la certitude, c'est bien le problème, que le compte à 371 000 a peut-être plus de chances d'être vrai que celui à 12. Mais c'est une déduction, ce n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr. Certains, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, ont commenté le tweet que j'ai commis depuis hier en disant « Mais est-ce que c'est vraiment toi ?» Qui nous dit que c'est vraiment toi ? Personne. Personne, en fait. C'est le problème. Yaz Madoka, merci pour le 14e mois d'abonnement. Super. Qui m'écrit ? Qui m'envoie plein de SMS à cette heure ? Ouh, quelqu'un que j'aime beaucoup, Grégoire. Ouais, alors ça, ok. Garçon avec qui j'ai beaucoup travaillé, que j'aime beaucoup. Ok, je vais le rappeler après le stream. Le spécialiste, et s'il y a deux Samuel Etienne qui disent être le vrai avec le badge Twitter, on fait quoi ? Bah, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à cette question. Voilà, il faut deviner, il faut aller voir les tweets et vous dire, ben, ça doit être le vrai, celui-là, c'est bizarre. Mais voilà. Et si quelqu'un paye pour se faire certifier Samuel Etienne, dit l'Extratovic, ça ne marche pas, ça n'a aucun intérêt. Parce que ce n'est pas ce que vérifie Twitter. Twitter, quand tu payes, ne vérifie pas que tu es qui tu dis que tu es. C'est pas ça, ils veulent juste que tu payes en fait, c'est tout ce qui est demandé. Donc ce badge ne certifie rien du tout. Il ne vaut absolument rien. Donc aucun intérêt de se le prendre. Sauf si Musk va au bout de son idée, parce qu'à un moment il a dit, alors le problème c'est qu'il change d'avis à peu près tous les quarts d'heure, notamment sur la gestion de ce réseau social. Musk a dit à un moment, seuls les comptes certifiés payants verront leur message mis en avant. Voilà. Hein. Seront pris en compte dans l'algorithme pour peser un petit peu dans le game. Quoi. Alors, si à un moment, on se rend compte, effectivement, que l'abonnement permet à son message d'être plus lu, hein, ou alors pire, si on se rend compte à un moment que de ne pas payer fait qu'en fait, tes messages ne sont plus vus, ou très, 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 très peu vus, mis très, très, très en bas par l'algorithme, alors là, c'est une autre histoire, quoi. Alors pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors moi, et le petit tweet d'hier soir, c'est un test. Hier, je perds ma certif. Je tweete un truc, voilà, hier soir, et je vois 2500 likes, qui est un bon score, en fait, pour un tweet de Papy Sam. Ça veut dire que, voilà, il a été lu, voilà. Ce même tweet, s'il a vu 12 likes, comme je connais à peu près comment fonctionnent mes tweets, je me serais dit, ok, il y a un truc, quoi. Vous voyez ? Donc ça n'est pas encore le cas. Mais ça pourrait être le cas. Donc ça, c'est un vrai truc. Voilà. Là, ça pourrait inciter effectivement, notamment ceux qui se servent de Twitter comme moi, à la fois pour être informés et pour informer, à prendre l'abonnement. Quoi. C'est légal, me dit Claims. En fait, ça appartient à Musk, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est, qui gère Twitter et les grands réseaux sociaux, ce n'est pas encadré, ce n'est pas géré par les États ou les, les démocraties. Non, c'est des boîtes privées, donc en vrai, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà, Lolilol est persuadé que c'est ce que fera Musk pour vous inciter à payer, par exemple. Voilà. Et si on se barre de cette daube, est-ce que c'est pas mieux de monter Corvax ? Le problème, c'est que moi, je trouve que c'est un super outil. Alors, il est un peu abîmé, je trouve, là. Il va être plus difficile de distinguer le vrai du faux, le bon grain de l'ivraie, comme on disait avant. Donc c'est un outil qui est abîmé, mais ça reste un outil passionnant pour s'informer et pour informer et pour émettre des informations et pour débattre et pour parler d'actualité. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui. Pour un journaliste, c'est vraiment passionnant Twitter, quoi. T'as lu chez Charcuterie? Merci pour ce troisième mois d'abonnement et le très gentil message. J'aime bien ce pseudo, chez Charcuterie. Il y a Lulo qui écrit après que tout le monde aura payé les bleus et les golds, il va faire apparaître les platines à 10K, les diamants à 100K. Ouais, peut-être, ouais. Peut-être. Allez, je lis encore un ou deux messages, puis on va passer à cette énorme amende que s'est pris Fox News dans la tête, là, de genre 700 millions de dollars. Chien GPT écrit, ça va aiguiser notre esprit critique. Le vrai Samuel Etienne ne tweetera jamais quoi couber. Eh ben si, je l'ai tweeté. Et je sais que tu le sais, et je sais que tu t'en amuses. Merci Peter Starship pour le 20e mois d'abonnement. Tu es tout excusé. On ne fait que démarrer. On parle de la perte de certification, de la vraie certification, de la disparition de la vraie certification depuis hier soir sur Twitter. Merci Tibet, 20 mois, c'est incroyable, je suis bien d'accord. Bon, comme le résume John, Twitter vérifie que le paiement est bien passé, c'est tout, ce n'est plus une certification, c'est une facture. Voilà, exactement. Exactement, c'est simple, hein. Lord of Tempest, merci pour le troisième mois d'abonnement. L'extraterrestre, ce que je voulais dire, c'était, est-ce que ça t'inciterait toi à payer? Que ferais-tu contre cette personne qui t'usurpe? Donc si quelqu'un se ferait passer pour moi en prenant un badge et en créant un compte à mon nom. À mon avis, c'est sans problème. Qu'est-ce que je ferais? Rien, parce que je pense que je ne pourrais rien faire légalement. Est-ce que ça pourrait m'inciter à payer? Alors, non, pour avoir une certification qui n'en est pas une. En revanche, si je m'apercevais que mes messages, mes tweets disparaissaient en raison de l'algorithme qui ne mettrait plus en avant que les tweets de comptes payants, c'est un truc qu'a annoncé Musk à un moment, bah en vrai, là, je serais tenté par le fait de payer. Je ne m'achèterais pas une certification parce que ça n'est pas une certification. Je m'achèterais le fait de, que mes tweets puissent être lus. Là, je suis extrêmement clair là-dessus, hein. Je serais obligé en fait de le faire, sinon il faudrait que je quitte Twitter. Donc voilà. Sauf si France Télévisions me fait profiter d'un abonnement d'entreprise, quoi. Ce qui serait encore mieux du coup, parce que du coup, mon compte serait en quelque sorte authentifié par France Télévisions, qui ne va pas authentifier n'importe qui, bien sûr, uniquement ses salariés. Et là, on revient sur une vraie certif. Je suis sûr que vous pouvez me donner dans le chat des exemples d'entreprises qui ont acheté le gold et qui en ont fait profiter. Tiens, j'ai une idée en tête. Je crois que Popcorn a payé l'assertif gold. Voilà. Boum. Voilà. OK. Voilà. Popcorn a payé l'assertif gold. Alors, par exemple, est-ce que Domingo, du coup, a profité de ça? Il est où le PA? Faut taper PA, je l'ai pas. Ah si, il est là. Ah bah voilà. Ah bah non, il l'a pas. Il l'a pas encore. Mais il pourrait, je pense. Il pourrait. Voilà. Tiens, on me dit que. Tiens, un exemple que me donne Babarge. Tu vois, PA, il a 1 million d'abonnés sur Twitter. Et il a pas de certif, quoi. Voilà. Voilà. C'est quand même ouf. On me dit que justement, quelqu'un me donne un exemple vachement intéressant. Où est-ce que tu es? Vous me parlez de la Carmine Corp. Il y a aussi Game One. Tu vois, alors Game One, par exemple, je vais remercier la personne. Babarge me dit que Game One a payé en tant qu'entreprise. Hop, confirmation. Et que du coup, Marcus, qu'on voit à gauche, là, je sais, l'autre c'est Julien, il est venu à la maison la semaine dernière. Ha ha ha, Julien Teluc. Et Marcus, a priori, il a aussi l'assertif maintenant. Je le vois pas, Marcus. C'est quoi, Marcus? C'est Marcus. C'est quoi son compte Twitter? Ah zut. C'est quoi le compte Twitter de Marcus? El Chico? Marcus de Boulet? Ok. Ah bah oui, ça je le savais en plus. Voilà. Ah bah voilà. Vachement intéressant. Et alors regardez. Alors là, moi je trouve que ça. Là, c'est, pour le coup, c'est une certif intéressante. Vous voyez? Marcus. Donc si on clique sur le badge bleu là, C'est écrit quelque chose de particulier. Ce compte est certifié, pas parce qu'il a payé, parce qu'il s'agit d'un affilié de Game One sur Twitter. Et donc, c'est Game One qui certifie. Ça, c'est cool. Et effectivement, à côté, il y a le badge de Game One qui renvoie au compte de Game One. Et si on clique sur le petit badge gold, ce compte est certifié parce qu'il s'agit d'une organisation officielle sur Twitter. Alors que si on va sur le badge de quelqu'un qui a juste payé, bon, on va essayer d'en trouver un, tiens. Pop. Alors, tiens, on va chercher quelqu'un qui a payé. Pop. Guillaume TC, il a plus assertif, Guillaume. Pop. Allez, cherchons un badge bleu. Premier qui le trouve, il a gagné. Pierre-Antoine, il a payé. Tiens, c'est drôle. Si on clique. Pierre-Antoine, je l'adore. Tu vois. Alors, Pierre-Antoine Damecourt, qui est un gars que j'adore, qui travaille à l'équipe TV, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Qui est vachement drôle. Et en fait, bon, ben, Pierre-Antoine, il a payé. Voilà. Et qu'est-ce qui est marqué this account, bon, ce compte est vérifié parce que il a souscrit à Twitter Blue. Voilà. Et on a vérifié son numéro de téléphone. That's it. Voilà. Ouais. Vous voyez la différence? C'est vachement intéressant. Hein. Et donc, moi, le kiff pour moi, je reviens en arrière, ce serait d'avoir. Donc, on va retourner. Tiens, est-ce que Julien Teloup? Normalement, Julien Teloup, il va avoir le badge aussi. Julien, qui était. Ah, bah voilà. Julien, qui était avec nous vendredi dernier, il a quoi? Voilà. Lui, il a un compte certifié parce que affilié de Game One sur Twitter. Et on clique sur le badge Game One et on arrive au gold de Game One. Bon, alors si France Télévisions fait ça demain, eh ben, le badge que je vais avoir, ce ne sera pas juste le badge bleu, ce sera comme Julien là et Marcus, un badge bleu. Déjà, quand on clique, ce n'est pas le même message, il est certifié parce que l'entreprise a certifié que c'était bien la personne et vous avez le badge de l'entreprise à côté. Alors là, ça redevient une vraie certif. Si France Télé fait ça, pour moi, je serais super content en vrai. Parce que là, on revient à une vraie certification. C'est un peu la mort des indépendants, dit Ericite. Ben ouais. À moins qu'en tant qu'indépendant et donc entreprise, même entreprise individuelle, ils acceptent de payer les 1000 ou les 1500 par mois dont on parlait. Quoi. Voilà. Dommage que ce soit les mêmes couleurs bleues, dit Lial. Ben ouais, carrément. Mais je pense qu'il le fait exprès, Musk, du coup. Parce que comme il y aura des badges bleus qui sont des vrais certifs, vous l'avez compris, via les entreprises, et des badges bleus qui ne sont pas des vrais certifs. Eh bien, ça pourra faire penser aux gens qui surfent un peu rapidement que les gens qui ont les badges bleus juste parce qu'ils ont payé, eh bien, c'est de vraies certifications, quoi. Voilà. Non, c'est pas par an, les 1000 balles, c'est par mois, je crois. Ouais, c'est par mois. Hein. Je crois que c'est par mois. Alors, pour des grosses boîtes, en vrai, c'est que dalle, hein. Mais c'est par mois. Ouais, c'est pas par an. Vous confirmez, ceux qui ont bossé un peu sur la question, que les 1000, 1500, là, c'est par mois, hein, on est d'accord? Vous confirmez? Ouais, ok. King Julian confirme, c'est par moi. C'est par moi. C'est marrant parce que vous voyez, pourquoi on est un petit peu approximatif quand on est en train de chercher les bonnes infos? Parce qu'on est au tout début hein, de ce système. Ça y est, c'est mis en place depuis hier soir en vrai. Hein. Et du coup, il y a 47 Alexia qui écrit « Je vais devoir revoir mon cours d'éducation aux médias de la semaine prochaine puisque j'ai mis dedans qu'il fallait vérifier les badges bleus. » Donc certains badges bleus sont des vrais badges de certif, mais on les reconnaît parce qu'il y a le badge de l'entreprise à côté. Je suis étonné que Popcorn paye 1000 balles par mois. C'est que tu connais pas les budgets alors, parce que Ben & Nuts, non, c'est pas un souci pour une boîte comme Popcorn en vrai. Popcorn, c'est. Si je dis pas de bêtises, c'est derrière c'est Webedia notamment. Hein. Donc, ça va. Non, ça va. Voilà. C'est pas, pour le coup, pour les grosses boîtes, c'est pas tellement le coût hein, qui est embêtant. C'est est-ce qu'ils veulent participer à ce système-là ou pas, quoi. Vous voyez, le monde pour l'instant n'a pas pris le badge. Le Parisien n'a pas pris le badge. On a vu que le Figaro avait pris le badge. Libération n'a pas pris le badge. Donc après, c'est des. Voilà, je pense que chaque média va se poser la question. Voilà. Tiens, ouais, est-ce que Zen est certifié, vu que Zen c'est WebEd aussi? Est-ce que Zen ils sont certifiés? Hop. Oui, non, suspense. Zen pour l'instant, ils ne sont pas certifiés. Pour l'instant. Voilà. Et je pense qu'il pourrait en vrai. Voilà. Est-ce que l'ami Maxime Biaggi est certifié? Max, pour l'instant, il n'est pas certifié Maxime. Alors que c'est bien Maxime, tu vois. Un petit compte à 129 000 followers. C'est Maxime, bien sûr, quoi. Voilà. C'est rigolo, hein. Alors, tiens, on me parle du badge. Tiens, allons voir le badge gris aussi. Alors, le badge gris, c'est encore autre chose. On me dit que, par exemple, que le président Macron, il a le badge gris. Voilà. Voilà, il a le badge gris, le président Macron. Voilà. Hop, le badge gris, on clique. Compte certifié. Ce compte est certifié car il s'agit d'un compte gouvernemental ou d'une organisation multilatérale. Je pense que si on va voir l'ONU, on va retrouver ce badge gris, par exemple. Voilà, Nations Unies, badge gris, quoi. Voilà. Vous voyez, tout ce qui est organisation internationale, ou, donc, si je reclique, compte gouvernemental, c'est gris. Voilà. Ça, c'est une vraie certification, par contre. Voilà. Pour le gris, vous n'allez pas en voir beaucoup. Hein. C'est intéressant, hein. Voilà. Hop. Oh, ça veut dire quoi, organisation multilatérale? Bah, c'est une organisation internationale type ONU. Tu vois, je pense que si on va voir le FMI, le Fonds monétaire international. Alors, le FMI, je trouve pas le compte du FMI. Alors, il est où le compte du FMI? Bah, le FMI, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils ont pas de badge. Si on va voir, je sais pas moi, l'OTAN, NATO, en VO. Est-ce qu'ils ont un compte? Ouais, tiens, regarde, boum, ça c'est le compte de l'OTAN. Donc NATO en anglais. Voilà, là, un petit badge gris. Organisation internationale, quoi. Hein, voilà. Organisation multilatérale. Ok, voilà. Le RN, apparemment, me dit quelqu'un. Bah ouais, bah, ce serait logique qu'un parti politique. Ah, et non, ils ont un bleu, eux. Ah, ils n'ont pas. Non. Donc 328 000 followers, donc c'est le vrai compte du RN, a priori, pas de souci. Ils n'ont pas le gris, ils ont un bleu parce qu'ils ont payé. Voilà. Il suffit de cliquer, en fait. Hein. C'est hyper simple. Est-ce qu'il est payant le badge gris, Shih Tzu, je sais pas, je dirais que non. Pour moi, le badge gris, la logique, ce serait qu'il ne soit pas payant, en fait, en vrai. Enfin, après, c'est une boîte privée, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc, j'ai pas l'info, la logique. La logique voudrait que ce soit pas payant. La logique. Parce que Popcorn, c'est peut-être pas multilatéral, peut-être, me dit Eliolo. J'adore. Marine Le Pen a le gris, me dit-on. Marine Le Pen a le gris. Oui, peut-être. En tant que personnalité politique, ouais, ce serait logique. Hein, parce que... Ouais, Marine Le Pen, elle a le gris. Ouais, bien joué. Marine Le Pen a le gris. Hop, on clique. Voilà. Compte gouvernemental ou organisation multilatérale. Bon, pour le coup, ça marche pas. Hein, puisque ça n'est pas un compte gouvernemental. Marine Le Pen n'est pas au gouvernement, pas encore au gouvernement. Et ça n'est pas une organisation multilatérale. Mais on comprend l'idée, on est sur un compte de personnalité politique. Voilà. Voilà. Donc en soi, ça ne me choque pas pour le coup. Que au moins les responsables politiques de premier plan puissent être identifiés sur Twitch, enfin, c'est le minimum. Quoi. Vous imaginez demain si des gens créent des comptes, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, arrivent à faire grimper leur nombre de followers en les achetant, hein. Vous savez que acheter des followers sur Twitter, c'est en deux clics. Hein. Hein. À quelques euros, vous montez à 10 000, 50 000, sans problème. Hein. Hein. Je sais parce que... bon, ça, vous le savez. Moi, je le sais parce qu'on me l'a proposé. Il y a des gens que j'ai pu croiser dans le cadre professionnel qui m'ont dit « Ah, il y a quelques années, quand mon compte Twitter n'était pas encore très, 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 très étoffé, ils m'ont dit « tu sais qu'on peut... c'est très facile. Hein. » Et j'ai dit « Mais jamais, quoi. » Quel intérêt, moi je veux des vrais followers avec lesquels interagir et puis ça se voit, c'est super facile. Je vais pas balancer des noms, mais je pourrais vous donner des noms de confrères, journalistes, animateurs, qui ont des comptes confortables à 300 000, 500 000 followers sur Twitter, hein, et qui ont acheté des followers. Et c'est tellement facile à voir. Vous allez voir tout simplement les succès des tweets. Voilà. Ce sont des gens qui ont des centaines de milliers de followers sur Twitter, mais dont les messages sont likés, sont pas très très likés, quoi. Ouais, des messages qui ont très peu d'écho. Tiens, c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Comme c'est très étrange. C'est-à-dire que tous leurs followers dorment, en fait. Hein. Ne lisent jamais ce que la personne écrit. C'est très étrange. C'est super facile à voir. Donc, aucun intérêt, bien sûr, Alors, je trouve ça ridicule. C'est ridicule. Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte. Tu vois. Je pense même que. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'influenceurs, par exemple, les influenceurs de type, comment on appelle ça, ceux qui sont partis dans le pays où il fait chaud, là, où on ne paye pas beaucoup d'impôts, là, Dubaï. Je suis sûr qu'il y a plein d'influenceurs type Dubaï qui ont acheté des followers, mais c'est sûr. Et sauf qu'après, les marques, les entreprises qui font appel à leur souvenir en disant « Oh là là, il a 2 millions de followers », on ne font pas leur boulot et vont pas voir le vrai taux d'impression des messages et se font avoir, quoi. Voilà. Et tant pis pour leur gueule, hein, si les entreprises ne sont pas assez méfiantes. Mais vous voyez, c'est super facile. Hein. C'est super facile d'acheter des followers, quoi. Donc, je reviens à mon truc. Vous imaginez si demain, quelqu'un crée un compte Macron, Le Pen, Mélenchon, achète des followers et commence à balancer des dingueries. Mais en fait, c'est techniquement tout à fait possible, quoi. Alors que, du coup, ces personnalités politiques, elles ont un badge un peu à part genre gris. Heureusement, quoi. Heureusement. Heureusement. Sef me dit, et toi Sam, combien tu en as acheté? Ben, allez voir mon compte, allez voir le taux de réaction au message que je poste. Bon, ben là, on voit effectivement que c'est des vrais followers, quoi. Moi, j'en ai pas acheté un seul. Voilà. J'en ai pas acheté un seul. Voilà. Et si un jour quelqu'un arrive à démontrer que j'en ai acheté un seul, je mange ma tablette là. Je mange ma tablette devant vous. Voilà. Parce que c'est pas honnête. C'est pas honnête. Un journaliste peut pas faire ça en fait. Jean-Luc Mélenchon n'a pas le badge gris, me dit-on, mais il va l'avoir, il faut qu'il l'ait. Voilà. Bon, on a passé un petit moment sur Twitter quand même. Hein. Vous savez quoi, on en reparle ce soir, dans les bleus Étienne, mais c'est bien parce que grâce à vous, j'ai bossé le sujet un petit peu. Voilà. Et on en parle ce soir avec les invités de ce soir. Regardez la belle line-up de ce soir. Pouf. Ce soir, nous recevons AlphaCast, le streamer, pour la première fois dans l'hebdo Étienne, et j'en suis très content. AlphaCast qui m'a proposé un sujet notamment sur les jeux de rôle. Voilà. On va parler de jeux de rôle, on va parler de Donjons et Dragons. Voilà. Y a une actualité parce qu'il y a une petite hype de nouveau autour des jeux de rôle. Donc c'est un petit sujet un petit peu plus léger ce soir dans l'actualité. Donc AlphaCast, il sera avec nous ce soir. L'ami Constance Villanova, la journaliste indépendante qui est géniale, donc ce sera ça au moins troisième ou quatrième fois, je ne sais plus. Que vous aimez beaucoup, qui est à mon avis, que je trouve très à l'aise dans l'exercice sur Twitch, qui revient ce soir, elle est topissime. Thierry Moreau, habitué aussi, streamer, lui-même d'ailleurs. Voilà. Thierry, c'est un pilier de l'émission, il revient souvent parce que je l'aime bien, et il fait du bon boulot. Et puis, il n'est pas toujours de la vie générale, justement, il apporte autre chose. Et puis, l'ami Thomas Desseur, l'humoriste, qui vient pour la première fois ce soir, voilà. Voilà, c'est pas mal, hein? Non, Constance, c'est au moins sa troisième fois depuis le début. Voilà. Les thèmes? Ouais, allez, je vous les donne parce que je vous aime bien. Le jeudi soir, je passe ma petite soirée sur mon ordinateur pour réfléchir à toute l'actualité de la semaine après avoir échangé avec les invités et je leur propose quatre thèmes en fonction de ce qu'ils m'ont dit, de ce que j'ai vu aussi. Alors, par exemple, les thèmes de ce soir, c'est Macron peut-il tenir? On va en parler dans un instant, voilà. Cette tension assez importante aujourd'hui autour du chef de l'État. Macron peut-il tenir? Immigration, faut-il une nouvelle loi? On est sur des sujets légers, comme vous le voyez. Hein. Le président Macron, début de semaine, a parlé d'immigration. Gérald Darmanin veut absolument que son projet de loi aille au Parlement. Bruno Le Maire a dit des choses sur la fraude sociale et le Maghreb, des choses qui lui ont été beaucoup reprochées par la gauche. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut absolument une nouvelle loi sur l'immigration en France? Une nouvelle loi, parce qu'il y en a eu déjà pas mal. Deuxième thème. Troisième thème. La fermeture, puisque c'est officiel désormais, de la Web TV, le stream. Voilà. C'est un peu triste quand même, parce qu'il y a des gens de qualité qui travaillent sur cette Web TV. Donc, ça s'arrête bientôt, là. C'est quoi? C'est fin mai, je crois. Donc, on avait des rumeurs, des bruits de couloir, mais c'est officiel, donc on va parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire de Twitch aujourd'hui? Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça ne marche plus? Est-ce qu'une web télé peut marcher sur Twitch? C'est un sujet que je trouve intéressant. La nouvelle hype des jeux de rôle, proposée par l'ami AlphaCast. Voilà. ou comment une partie du grand public est en train de découvrir ou de redécouvrir les jeux de rôle. Voilà. Et puis, évidemment, j'ai ajouté Twitter, du coup. Voilà. Donc, ça fait 5 thèmes. On verra si on a le temps de tout faire. C'est pas mal, hein ? En vrai. Voilà. Donc, ça, c'est ce soir. Rendez-vous 20h. Et puis maintenant, eh bien, on va lire tous les articles que je vous ai mis de côté ce matin. Je remercie les derniers subs que je n'avais pas vus. Merci, vous êtes cool. Navray, merci beaucoup pour le 10e mois. Electrip45, les habitués sont là. Ça fait 20 mois de subs. Merci beaucoup. Champinours, merci pour le 2e mois d'abonnement. Mondidou, j'espère que tu vas bien. Merci pour le 2e mois. Et je crois que j'ai déjà remercié. Je ne suis pas sûr. Lord of Tempets, T-Bay et Peter Starship. Oui, oui, je crois. Je ne sais plus. Dans le doute, je le fais. Raspberry. Merci pour le 20e mois, c'est super. Merci Pagetti pour le gentil message. Oh là là, c'est quoi tous ces subs de fou là ? Merci Pagetti. Merci LTCL, j'espère que je prononce bien, pour le 12e mois, ça nous fait un an. Merci Tom4907, merci pour ce sub. Et Big Steak, merci pour le 2e mois d'abonnement, j'espère que tout va bien. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par Le Monde. Voilà. Alors c'est intéressant parce que je lis tous les journaux tous les jours parce que c'est mon kiff. Et puis il y a des jours où je vais vous trouver trois articles dans le même journal. Et puis parfois rien. Dans Le Parisien aujourd'hui, il n'y a rien qui m'a totalement hypé, même s'il y a un sujet intéressant sur l'armée en France. Dans Le Monde en revanche, des choses très intéressantes. D'abord sur cette alors c'est pas une amende, sur ce chèque de fou que Fox News a accepté de payer à la suite d'une affaire de désinformation. On parle d'un chèque de 787,5 millions de dollars. C'est IK75. Merci pour le message et pour le sub. Donc Fox News solde la désinformation sur l'élection de 2020, donc la dernière présidentielle qui a vu la victoire de Biden sur Trump, parce qu'il y a eu des informations, et ça n'est pas bien. Ce qui est encore mieux, c'est quand c'est puni. Voilà. Une petite désinformation qui coûte donc à Fox News 787,5 millions de dollars. J'adore répéter ce chiffre tant il est ouf. La chaîne paiera donc ce prix à l'entreprise de machines à voter Dominion. Pourquoi ? Eh bien, explication. Aux yeux des conservateurs, le procès était un test pour la liberté d'expression. Hein. Oui, oui, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. Alors le problème de la liberté d'expression, qui est une chose très importante, c'est que ce concept de liberté d'expression est utilisé par certains pour dire n'importe quoi. Alors la liberté d'expression, c'est pas dire n'importe quoi. La liberté d'expression, elle n'est pas infinie. Si je vous dis, je sais pas, que si ma liberté d'expression est de vous dire que je suis allemand en fait, que je fais 2m12 et que je suis un champion olympique de ski, c'est très intéressant comme concept de liberté d'expression, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait. Et alors Fox News pourtant a pris quelques libertés avec la vérité des faits, et ça a coûté 787,5 millions de dollars. Aux yeux des conservateurs, le procès était donc un test pour la liberté d'expression. Jusqu'où on peut dire n'importe quoi. Pour les démocrates, une occasion d'exposer la désinformation qui mine le processus démocratique. L'entreprise de machines à voter Dominion Voting System avait porté plainte en diffamation contre la chaîne d'information Fox News, la chaîne conservatrice, en mars 2021. Elle réclamait 1,6 milliard de dollars de dommages et intérêts pour avoir été accusée pendant des semaines à l'antenne de Fox News d'avoir falsifié les résultats du scrutin présidentiel de 2020 en faveur de Biden. Donc, cette société de machines à voter, hein, on clique là, tout, hein, cette entreprise avait été accusée par Fox News ou par des présentateurs ou des invités de Fox News d'avoir truqué les résultats de la présidentielle. Hein, c'est l'argumentaire de Trump, vous savez, de ses partisans. Il n'a pas perdu, l'élection lui a été volée parce qu'elle était truquée. Donc ça a été porté sur l'antenne de Fox News. La société en question a porté plainte et eh ben, il n'y aura pas de procès. Et c'est dommage. Il n'y aura pas de procès parce que Fox News a préféré faire un chèque pour éviter le procès, tellement Fox News avait peur de voir eh bien, les présentateurs, les responsables de la chaîne, devoir comparaître et admettre avoir menti, ce qui aurait été une catastrophe pour l'image de la chaîne, vous l'imaginez. Donc du coup, Le Monde écrit que le pays reste sur sa faim. Le procès a été annulé, l'affaire déclarée close, puisque les deux parties sont parvenues à un règlement à l'amiable. Alors, comme le dit, c'est le pouvoir de l'argent, bah ouais. Mais vous allez comprendre, enfin, vous allez voir pourquoi. La petite boîte en question, là, je dis petite boîte, parce qu'elle fait un chiffre d'affaires de 17 millions de dollars. On sait bien, hein. Donc, un chiffre annuel d'affaires de 17 millions de dollars, Dominion, Fox News lui a proposé 787 millions de dollars. Ils font 17 millions de dollars de chiffre d'affaires par an, de chiffre d'affaires, pas de bénéfice. Et Fox News leur propose un chèque de 787 millions de dollars. Bon, voilà. Et donc, fin de l'histoire. Alors, on sait très bien ce qu'il y a derrière. Vous imaginez bien que si Fox News a accepté de payer ce chèque, c'est qu'il y avait un problème. Voilà. Mais il n'y aura pas de procès. Du coup, le PDG de Dominion, l'entreprise de machines à voter, là, s'est félicité que Fox News ait donc admis avoir menti, hein, à propos de sa firme. Répercuter honnêtement les informations est essentiel à notre démocratie, a-t-il déclaré. Fox News a choisi de payer cher, note la presse américaine, pour éviter le déballage qui s'annonçait lors d'un procès. L'empire de Robert Murdoch devrait s'en remettre sans trop de difficultés. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 14 milliards de dollars en 2022. Donc, c'est énorme, 787 millions de dollars, mais le groupe fait 14 milliards de chiffre d'affaires, donc ils vont faire le chèque. Ils vont faire le chèque. En revanche, le règlement a déçu ceux qui rêvaient que les animateurs de la chaîne, pris en flagrant délit d'hypocrisie, soient contraints de témoigner à l'audience. Ils espéraient aussi que la chaîne serait condamnée à faire publiquement son mea culpa pour avoir propagé sciemment, et on va voir ce qui s'est passé, des mensonges. Il n'y aura pas cette phase-là où Fox News devra s'excuser publiquement. Alors c'est intéressant parce que Défécateur Officiel, notre ami qui est avec nous, qui lutte contre les fausses informations sur Twitter et sur Twitch, écrit « Et cette désinformation sur la machine à voter a été relayée abondamment en France à l'époque sur les comptes Twitter de désinformateurs notoires. » Voilà, ceux qu'on a vus récemment dans le documentaire de France Info, de Julien Pin et de Luc Brisson. Voilà. Et on revient, vous voyez, on revient aux réseaux sociaux, on revient à Twitter. À l'époque, hein, il y a des comptes en France qui ont relayé cette info. Est-ce qu'ils vont être poursuivis? Eux, sans doute pas. Les avocats de Dominion ont produit des emails, des SMS, voilà, pour prouver leurs accusations. Des messages qui ont montré que les vedettes de Fox News, en privé, se moquaient des deniers, donc ceux qui contestaient la défaite de Trump, c'est-à-dire qu'en privé, entre eux, ils se moquaient de ces gens en disant ils sont quand même un petit peu des... Je ne dirais pas le mot, voilà. Tout en faisant leur promotion à l'antenne. Alors c'est un peu bizarre, vous allez me dire, mais pourquoi ils n'y croyaient pas les présentateurs de Fox News et pourquoi ils en parlaient à l'antenne? Pourquoi? Audience, les amis. La direction de Fox News craignait d'être dépassée par des chaînes plus radicales, hein, plus pro-Trump, chauffant l'audience MAGA. Alors MAGA, c'est Make America Great Again, donc des chaînes qui flattaient un petit peu les idées des partisans de Trump, et préféraient suivre son public, qui était pro-Trump, le public de Fox News, plutôt que de l'éclairer et de leur donner les vraies infos, quoi. Donc l'audience plutôt que la vérité. Fox News n'a peut-être pas fini avec les suites de son accès de fièvre complotiste de 2020, écrit Le Monde, puisqu'une autre société, c'est peut-être pas terminé, cette fois de logiciel électoral, qui s'appelle Smartmatic, poursuit Fox News à New York et réclame 2,7 milliards de dollars de dommages et intérêts. Donc il y aura d'autres petits chèques à venir. Voilà, intéressant. Une bonne nouvelle dans cette histoire, à un moment... Quand tu racontes de... Pardon, hein, j'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants devant le stream. Mais quand tu racontes de la merde, à un moment, ça peut quand même te causer des soucis. Le seul souci, c'est qu'il n'y a pas eu de procès. Donc voilà, il n'y aura pas d'excuse publique de la part de Fox News. Mais bon, vous qui êtes bien informés, vous savez que Fox News a menti et que Fox News a pris cher. C'est vachement intéressant. Hein. Mais à un moment... qu'on ne puisse pas raconter en toute impunité n'importe quoi, qu'on soit un compte lambda sur les réseaux sociaux ou qu'on soit un média, et qu'à un moment on en paye le prix, je trouve que c'est quand même une très bonne nouvelle pour la démocratie et pour l'information. Voilà. Ah, c'est super. Il y a Cacao Lac qui dit « Bonjour Sam, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais ça pourrait être cool de faire des petites vidéos de 10 ou 15 minutes où tu résumes tout ce qui s'est passé dans la semaine, un peu comme Hugo décrypte, mais avec de vraies infos. » Hugo, il fait un super travail. Hein. Moi, j'aimerais bien faire un petit truc sur TikTok, en fait. Je pense que c'est un outil qui pourrait être sympa pour faire des petites vidéos sur l'info, en fait. Peut-être qu'à la rentrée, si j'ai le temps, je ferai ça. »56 l'ami, vous avez acheté où votre extension de cerveau qui vous permet d'écouter et de lire le chat en même temps? Enfin, de lire, je pense. Et je ne sais rien faire de bien, mais depuis tout petit, je sais faire un truc, c'est que je lis très vite. C'est mon seul talent, en fait. Je ne sais faire que ça. C'est pour ça que je vous lis la presse écrite, c'est parce que je lis très vite, je kiffe lire. Voilà, c'est mon super pouvoir à moi. Et donc, je lis les articles, puis je vous lis aussi. Voilà, c'est la seule chose que je sais faire correctement. Donc, voilà. Mais cette histoire, je la trouve passionnante, quoi. Non, mais si le trim dit non, pas TikTok, si, c'est un outil intéressant. C'est un outil intéressant parce qu'il touche un autre public qu'un public plus jeune. Et je pense qu'il faut pas laisser TikTok au truc léger. Je pense qu'on peut en faire quelque chose d'intéressant. Moi, je pense qu'on peut. Un outil en soi, il n'est pas bon, il est pas mauvais. Twitch c'est ni bon ni mauvais, Twitter c'est ni bon ni mauvais, Facebook c'est ni bon ni mauvais, les journaux c'est ni bon ni mauvais, TikTok c'est ni bon. C'est tout simple, tout dépend de l'utilisation que tu en fais. Donc tu peux utiliser l'outil pour en faire quelque chose de bien, ou tu peux utiliser l'outil ou pour des choses un peu légères, et tant mieux, parce qu'il faut se détendre aussi, ou pour faire des choses beaucoup moins sympas, genre arnaquer les gens, ou faire de la désinformation. Mais tu peux aussi... donc en vrai, il y a des trucs à inventer sur TikTok, en fait. Mais c'est pas fait encore. Hein. Voilà, comme le dit Tonio, Samuel Etienne n'est ni bon ni mauvais. C'est pareil. Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, en fait. Merci Wilk pour le deuxième mois. Merci il y a Ariana Grande qui vient de m'envoyer des beats. C'est sûrement la vraie. Je suis trop fier. Merci Ariana. Seika75, merci pour le... Je te remercie, je le refais pour le sub. Tu vois, TikTok, ce serait bien qu'il y ait des infos de qualité, dit Brisby. Il y a déjà des gens qui font des choses sur TikTok. Ok, 56 l'ami, je t'ai lu. Voilà. Rendez-vous, non pas au premier virage, mais à la rentrée. Est-ce que Ariana Grande est certifiée? Non, mais c'est sûrement la vraie. Hein. C'est sûrement la vraie. C'est Laura écrit, le problème de TikTok, c'est que c'est un média addictif. Je suis incapable de l'avoir installé sur mon tel sans y passer des heures. Voilà. Bah justement, raison de plus pour y aller. Pour que ton addiction te renvoie à des contenus de qualité. Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises personnes, dit FEJ. Voilà. Voilà, un média, ça s'utilise, c'est tout, dit Alan. Exactement. Oh bah, c'est à vous de vous faire aussi vos trucs, là. Il y a Joe qui dit, je suis pas d'accord, il y a un problème sur TikTok, l'appli est trop addictive. C'est à nous de nous auto-réguler, les gars. Moi, Twitter, pour moi, c'est addictif. J'y passe des heures. Voilà. Twitch, un petit peu addictif quand même, Twitch. Hein. J'y passe des heures aussi, en tant que streamer et en tant que consommateur, en tant que viewer. Donc non, c'est, quand c'est bien, c'est addictif. C'est comme le sucre et le gras, hein. Les chocolats, les bonbons. Mais après, c'est à chacun de se faire sa petite discipline, quoi. Tu vois, c'est à un moment, il faut aussi se prendre un petit peu en main, quoi. Hein. Je sais que tu peux le faire. Hein, tu te mets en mode shonen. Hein, c'est Ignox qui m'a expliqué toute la philosophie shonen. J'ai tout compris maintenant. Ouais. Allez, et si on tient, ça fait 1h27 qu'on cause et on n'a pas parlé du président Macron. Il serait temps quand même. Alors c'est un peu compliqué en ce moment, la séquence du chef de l'État là. Il a fait deux déplacements, vous savez, cette semaine, c'est pas très bien passé. Casserole, tout. Macron pris à partie en Alsace, c'était son premier. Voilà, c'est casserole time comme dit Kinema Live. Macron pris à partie en Alsace, c'était son premier déplacement de cette semaine. L'impossible apaisement, c'est intéressant. Le Monde, c'est un journal qui est pas trop dans le titre putaclic, qui est plutôt dans un choix assez rigoureux sur les mots. Quand Le Monde titre l'impossible apaisement, c'est assez fort en fait. Pour son premier déplacement depuis la promulgation de la loi sur les retraites, le chef de l'État a dû affronter la colère de manifestants. Pour son premier déplacement depuis la promulgation de l'éruptive loi sur les retraites, mercredi, dans le Bas-Rhin, puisqu'il y a eu un déplacement hier aussi, on va en parler, avant une visite dans l'Hérault jeudi, eh bien le président a été poursuivi par le contexte social à chaque étape. Une centaine de manifestants l'attendaient en tapant sur des casseroles ou des plats en métal, ça je pense que vous avez vu les images. Il a notamment déclaré, parce qu'il a déclaré plein de choses ces deux derniers jours, c'est pas des casseroles qui feront avancer la France. Je crois qu'il cherche à parler. Je crois qu'il ne cherche pas à parler. Je crois qu'il cherche à faire du bruit, a-t-il dit à propos des manifestants. Si on n'écoute que les gens qui font du bruit pour couvrir les paroles, on n'en sort pas. Hein, c'est sa ligne, c'est sa réaction par rapport à ces manifestations. Deux jours après l'allocution du président de la République, que nous avons streamé ensemble lundi, cette visite fait partie d'une stratégie plus globale de l'exécutif, parce que peut-être que vous vous interrogez, mais pourquoi le président Macron va sur le terrain alors que c'est un petit peu tendu en ce moment. Donc on nous parle d'une stratégie globale de l'exécutif. L'Élysée mise sur une usure du mécontentement social en assumant la réforme et en essayant de parler d'autres sujets. C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe, c'est un peu ça. Hein. Il a fait des annonces sur l'éducation nationale. Voilà. Il espère peut-être que le mécontentement va s'user, et c'est peut-être ce qui va se passer. Et qu'en parlant d'autres sujets, l'école notamment, eh bien, les gens vont passer à autre chose. Lundi, on a streamé l'allocution du président, et je vous ai dit mon analyse, qui n'engage que moi, j'étais surpris. J'étais surpris parce que j'ai trouvé que le chef de l'État n'a pas annoncé grand-chose de nouveau lundi, voire quasiment rien. Il a répété des choses qu'il avait déjà annoncées sur le RSA, sur l'immigration, sur la lutte contre le chômage, mais rien de vraiment nouveau qui pourrait genre enclencher une nouvelle dynamique. Et puis, ça, c'est sur le fond. Et sur la forme, j'étais très surpris de voir que le président n'était pas dans l'apaisement. Voilà. On a une séquence qui est très tendue. Hein. Merci Martino 2002 pour le deuxième mois d'abonnement. Séquence qui est très, très tendue. Il y a une vraie défiance d'une partie importante des Français par rapport à la réforme des retraites et au président qui l'a porté. Et moi, je m'étais dit, au regard de l'histoire politique de notre pays, notamment l'histoire de la 5e, que peut-être que le président Macron allait jouer l'apaisement, la main tendue. Hein, je vous ai compris, Gaulien, un petit peu en mode ouais, je vois la colère. Un truc, un peu d'horizontalité, d'honnêteté en disant ok, alors je vois la colère, j'entends la colère, je respecte la colère, voilà. Vous avez le droit de manifester votre colère. Je ne suis pas d'accord sur le fond avec vous. Moi, je pense qu'il faut faire cette réforme des retraites. Mais j'entends et je respecte cette colère. Donc, un discours d'apaisement, des mots d'apaisement, une espèce de main tendue. Voilà, peut-être le lancement d'un, je sais pas, d'un truc de négociation, de débat, comme le grand débat au moment des Gilets jaunes. Un truc un peu comme ça, quoi. Même s'il a déjà fait une fois, oui. À minima, un ton apaisé. Et puis, on n'était pas dans ça lundi. On l'a regardé, on l'a écouté ensemble. Et en fait, on était sur... sur quelque chose de plutôt droit dans ses bottes, quoi. Comme Alain Juppé qui avait inventé la formule en disant, bah, écoutez, cette réforme, fallait la faire. Donc, il n'a pas répété les mots qu'il avait utilisés les jours précédents. Mais aujourd'hui, sa ligne, président Macron, c'était dans mon programme. Pour mon deuxième mandat, vous m'avez élu. Si vous vouliez pas la réforme, fallait pas voter pour moi. Voilà. Il l'a dit ça. Il l'a pas dit lundi soir, mais il l'a dit quasiment mot pour mot. C'était dans mon programme. La réforme des retraites, le report de l'âge légal de départ à la retraite, fallait lire et fallait pas m'élire. Bon, alors, du coup, en mettant de côté le fait qu'il y a plein de gens qui ont voté pour lui. Pas pour voter pour son programme, mais pour notamment faire barrage à l'extrême droite. Voilà. Donc aujourd'hui, sa ligne, c'est celle-ci, et qui n'est pas vraiment une ligne d'apaisement. Je ne juge pas, je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien. Hein. Je dis juste que j'étais surpris, parce que je pensais que cette carte de l'apaisement était une carte qu'un président de la 5e, qui est censé être pas le président d'un parti, pas le président d'une partie des Français, mais le président de tous les Français. Il n'est pas élu le président de la 5e par tous les Français, bien sûr. Mais il est censé, au moment de son élection, devenir le président de tous les Français. Un trait d'union, un garant d'unité, voilà, pour que ces millions de citoyens avec des aspirations différentes arrivent à vivre bon an, mal an, d'une façon apaisée ensemble. Le président, il doit servir à ça. Et le président Macron ne s'inscrit pas tellement dans cette idée-là, Bon, moi, en tant qu'observateur de la vie politique française depuis des siècles, puisque je suis très vieux, j'avais été surpris de ça. Bon, on est toujours sur un peu cette idée. Dans ses déplacements, il a toujours un petit peu ce ton un peu droit dans ses bottes, bravage, dirais certains. À un moment, par exemple, il a été interpellé par une manifestante. Quand est-ce que vous avez démissionné? Et donc, tout de suite, il réagit en disant « Mais je vous rassure, madame, je ne démissionnerai pas. » Oui, c'est un ton un peu comme ça. Bon, je ne juge pas sur le fond, mais c'est la ligne qu'il a choisie, quoi. Je poursuis l'article du Monde. En attendant les éclaircies, cette série de déplacements doit permettre au président de la République d'incarner ses 100 jours, durée qu'il a lui-même théorisée pour tenter de désembourber son quinquennat. C'est un truc qu'il a annoncé lundi. Il a dit, bon, on se donne 100 jours, voilà, et puis vous allez voir, ça va s'apaiser. Donnez-moi 100 jours, vous allez voir ce que vous allez voir, et vous allez être super content. Alors c'est un peu maladroit parce que les 100 jours, je reviens à l'histoire, pardon, je suis chiant, mais l'histoire c'est important parce que l'histoire éclaire le présent. Et en fait, 100 jours, c'est un peu maladroit. Il aurait dû parler de 3 mois. Parce qu'en fait, les 100 jours, c'est un épisode de l'histoire de France qui nous ramène à Napoléon Ier. Hein. Et en fait, c'est le retour en France de Napoléon Ier, hein, qui a duré 100 jours, qui est un peu un gros échec. En fait, on est en 1815. Hein, et c'est la tentative de reconquête du pouvoir par Napoléon. Voilà, il débarque à Golfe-Juan. Voilà, et puis il marche vers Paris, voilà, ce qu'on appelait le vol de l'aigle à l'époque. Vous avez une fiche wiki là, qui est assez bien faite. Voilà. Et donc il reprend la main en fait pendant 100 jours. Voilà, il reprend le pouvoir. Et puis ça ne dure pas. Voilà, il échoue. Et après, bon, ben, 1815, c'est la restauration en fait, c'est le retour de la monarchie. Quoi. Donc en fait, c'est un échec. Donc alors c'est un peu, bon, vous allez me dire c'est un détail, mais c'est un peu maladroit en fait. Voilà. Donc je pense qu'il n'avait pas ça en tête, mais pour le coup, t'es pas sûr que ce soit l'idée du siècle en fait de parler des 100 jours. Je pense que 3 mois aurait été un peu plus heureux, voilà. Sachant sans doute que lui pense à autre chose, qui est la période des 100 jours, qui est une espèce d'état de grâce qui suit une élection présidentielle en France ou ailleurs. Sauf que c'est encore une erreur. Parce qu'on n'est plus à la suite de la présidentielle, puisque le président Macron est élu depuis un an. Donc là, pour le coup, si on renvoie, comme certains le disent très justement dans le chat, à la période des 100 jours qui suit l'élection d'un président, d'une présidente, espèce de période pendant laquelle on laisse un petit peu tranquille, en gros, et il est sur sa victoire, et puis il a un peu les mains libres pour faire ce qu'il veut, et notamment mener ses réformes, sauf que bah, les 100 jours, ils sont passés. Parce que c'était il y a un an, en fait. On peut pas resetter les 100 jours sans arrêt, quoi. Ça marche pas comme ça. Donc, pas convaincu par cette histoire. Et les manifestants qui continuent de dire leur colère quand il fait des déplacements, manifestement non plus. Tout le monde renvoie maintenant... Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Très bonne question. Tout le monde renvoie maintenant à la présentation de la feuille de route du gouvernement par la Première ministre mercredi 26 avril. Donc, c'est la semaine prochaine. Rien ne filtre. C'est vrai que alors, le président Macron, il a un peu mis la pression sur Elisabeth Borne, donc il a dit, bon ben voilà, il y a 100 jours, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis j'ai demandé à Elisabeth Borne de justement nous faire des propositions pour les réformes, etc. Et, tout. Et donc, a priori, mercredi, Elisabeth Borne va nous présenter cette feuille de route pour les 100 jours, hein, si vous suivez toujours, et Le Monde écrit, rien ne filtre de ces annonces, d'abord et avant tout parce que rien n'est préparé. C'est chaud. Voilà. Rien ne serait prêt, et en fait... Le Monde est en train de nous dire que l'exécutif est un peu comme un poulet sans tête, un poulet auquel on aurait coupé la tête, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, et qui continue à courir un petit peu dans la basse-cour, dans tous les sens, sans trop savoir où il va. Quoi. Le Monde a des mots qui sont très très durs. Hein. Rien ne filtre, d'abord et avant tout, parce que rien n'est préparé. C'est un petit peu embêtant. Quoi. Continuons l'article, puis après je vais vous lire, bien sûr. Hein. Lors de l'interview de accordé à TF1 et France 2, mercredi 22 mars, donc pas l'allocution de lundi, mais l'interview dans les 13 heures il y a quelques temps, le président Macron avait donné jusqu'à mi-avril, bon là on y est, hein, largement à sa première ministre pour élargir la majorité. J'espère qu'elle y arrivera, avait-il dit. Bon ben on est mi-avril largement, et l'élargissement de la majorité, ben, il n'a pas eu lieu, hein. Il n'a pas marché pendant la première année du quinquennat, donc c'est compliqué d'imaginer comment Elisabeth Borne y arrivera aujourd'hui, puisque eh bien, l'Assemblée nationale n'a pas changé, bien sûr. Fin de l'article de Mathieu Gouard, que je trouve assez intéressant. Sur le fond, l'Élysée n'a pas non plus mis de nouveaux sujets en débat, réhabilitant au contraire des thématiques classiques du macronisme, le travail, ou des sujets destinés à flatter une partie de l'opinion de droite et d'extrême droite, comme l'immigration et la sécurité. Au pire de la crise des retraites, une partie de la majorité doutait, mais misait sur la capacité de rebond du président, hein, comme au moment des gilets jaunes, hein, où le président Macron avait réussi à reprendre la main. Depuis lundi soir, écrit Le Monde pour finir, le nouveau délai, les 100 jours, réclamé par M. Macron, a rendu circonspect certains élus de sa majorité. Reste à savoir si en 100 jours, tout peut redevenir possible. Peut-être que oui. Voilà. Le Monde est dubitatif, je suis un peu dubitatif, mais la politique, c'est aussi la capacité parfois à se sortir de situations extrêmement difficiles et tendues, et à rebondir. Voilà. Peut-être qu'il va réussir. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les défis qu'il essaie de relever ne sont pas relevés. Hazard, merci pour l'abonnement offert à Fifou. Chine21, merci pour ce deuxième mois d'abonnement. Soyland, merci pour le 19e mois d'abonnement. Merci aux voyageurs pour les Beats Martino 2002. Merci pour le deuxième mois d'abonnement. Vous êtes formidable. Allez, je vous lis un petit peu. T'es tendu, Natacha. J'ai la ref, Yop. J'ai la ref. Ambiance de fin de règne, dit Jean-Sébastien. Peut-être. Ou pas. On en parlera ce soir avec mes invités de l'Hebdo, Étienne. Je vous lis. Défécator écrit, ce serait donc la classique stratégie de diversion du chiffon rouge, sauf que pour l'instant, il n'y a même pas de chiffon. C'est assez bien résumé. Alors, dans le Figaro, je crois, il y a quelques jours, on a lu un papier que j'ai trouvé passionnant qui disait que politiquement, la seule porte de sortie du président Macron, c'était à droite, toute, avec une vraie alliance avec la droite, avec plus de ministres de droite, avec un Premier ministre clairement cherché à droite, Darmanin, Le Cornu, Gérard Larcher, le président du Sénat, et une politique de droite avec le soutien des députés LR à l'Assemblée, du coup, pour constituer une forme de majorité absolue. Alors, le papier disait, c'est la seule solution. Et le papier disait, pour l'instant, le président Macron ne s'y résout pas. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui est BXK qui écrit élargissement égale droitisation comme s'il n'était pas assez. Toi, tu écris d'extrême droite. Alors, pour connaître l'histoire de l'extrême droite un petit peu dans ce pays, qualifier la majorité actuelle, le président Macron, d'extrême droite, pour le coup, ça, c'est un non-sens historique. Mais en tout cas, plus à droite, ouais, a priori, c'est la direction. Maintenant, c'est au président Macron de l'emprunter ou pas. Et ça, ça va dépendre. Bon, on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Je vous lis un petit peu. Qu'est-ce qui se passera après ces 100 jours ? Ben, au PAC, ben, il y aura encore 100 jours. Et voilà. Il reste 4 ans hein, au président, s'il ne démissionne pas. Et ouais. Ouais, il y a Cher Charcuterie qui à propos des 100 jours, qui écrit « Vu comment Macron sait bien parler, c'est vrai, et gère bien ses discours, le message sous-entendu ne peut pas être un hasard. Tu parles des 100 jours napoléoniens. Alors, c'est le président de la République. Après, de par sa formation, c'est plutôt un financier. Voilà. Ancien ministre de l'économie et des finances, notamment. Je ne suis pas sûr que le président Macron soit un passionné d'histoire, et notamment d'histoire constitutionnelle et d'histoire politique. Je ne suis pas sûr, en fait, que ce soit sa formation et son intérêt, en fait. Je suis pas sûr qu'en ayant parlé des 100 jours, il pense à Napoléon, en fait. Pas sûr, en fait. Donc, pas sûr. Pourquoi vous parlez du gâteau, le financier ? J'adore. C'est bon, le financier, mais... Je vous lis. Ah, peut-être. Il y a Chien GPT qui dit il essaie de reculer l'échéance pour esquiver et sachant que les vacances d'été sont moins propices à la mobilisation. Ouais. Ouais. Oui, 100 jours, ça nous amène aux vacances d'été. Ouais. Je pense que tu n'es pas loin de la vérité. On est dans un contexte de tension. Et peut-être que pour faire passer ces tensions, la seule chose qu'il faille, c'est du temps, en fait. Voilà. C'est peut-être pour ça que le président Macron ne propose rien de vraiment nouveau, puisqu'il propose rien de véritablement nouveau. En se disant peut-être en son fort intérieur, il faut juste du temps, en fait, pour que ça s'apaise et que les gens passent à autre chose, voilà. Et du coup, 100 jours, ça nous amène avril, mai. Alors, mai, juin, juillet, mi-mi, voilà. Puis après, c'est l'été, effectivement, ouais. Pourquoi pas? Si c'est ça, c'est cynique, me dit Azazou. C'est de la politique, après. Hein. C'est pas de la poésie. Hein. Donc, même s'il y a... La politique, c'est une affaire de conviction et de cynisme. Les deux. Je crois qu'une partie de nos représentants sont des convaincus et des gens qui portent des valeurs et des idées, d'autres moins. Et même parmi ceux qui portent des idées et des valeurs et qui se battent vraiment pour leurs idées, bah, il y a aussi des échéances électorales, des campagnes à faire, des mots à tenir, des discours à écrire, et que dans ça, il y a du calcul et du cynisme, comme il y en a d'ailleurs dans toutes les activités humaines. Ah oui, c'est vrai, ça renvoie au 14 juillet, ouais. Bah oui, au défilé du 14 juillet. Et normalement, il peut y avoir aussi une allocution à ce moment-là. Allez, je lis encore deux messages là-dessus, puis on en parle ce soir. Est-ce qu'il n'a pas trop fâché les gens, demande Dunaru? Eh bien, c'est la question. Voilà, c'est la grande question. C'est la question que je pose ce soir. La question que je pose ce soir à mes invités, c'est Macron peut-il tenir? Imaginons que le président Macron gagne son pari. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, la loi est promulguée, la réforme des retraites est promulguée, la mobilisation s'affaiblit de jour en jour, de semaine en semaine, que le 1er mai prochain jour de mobilisation, bah, il n'y a pas tant de monde que ça dans la rue, qu'il aille sur le terrain et que les gens se fatiguent un petit peu d'aller l'interpeller et de l'engueuler. Bref, qu'il gagne son pari du pourrissement ou du simplement du fait qu'il y a une lassitude par rapport à ça. Bon, voilà, bah, c'est la réforme des retraites est passée, ce combat est perdu, bon, on passe à autre chose, quoi. Voilà, comme écrit « Mange tes mains, les gens vont se fatiguer ». Ça, c'est le pari peut-être aujourd'hui du pouvoir aujourd'hui. Alors, un pari, ça se perd ou ça se gagne. Ou alors... Eh bien, le mécontentement s'installe, tient, voilà, et la défiance des Français continue de s'exprimer à chaque déplacement, à chaque intervention du président de la République. Et là, ben, on arrive dans un climat très compliqué où on a un président qui est en gros à côté des citoyens, alors qui n'est plus en phase avec les Français, où il y a de la colère, il y a de la défiance, il y a de la méfiance, il y a tout ce que vous voulez. Et il reste 4 ans à faire. C'est long, 4 ans. Dans ces conditions. Moi, c'est la question que je pose. Voilà. Ou il gagne son pari, ou il gagne pas. Et s'il gagne pas, on est vraiment dans un truc très, 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 très compliqué. 4 ans, c'est très long. Merci, Tsuki Tommy, pour le raid. Voilà. Bon, après, j'ai pas de boule de cristal. Ah, ça, c'est vachement intéressant. Hop, je reviens au monde. Et je reviens un peu au président Macron, puisqu'il a fait des annonces hier en direction des enseignants pour augmenter leur salaire. Alors, il y a eu des réactions des syndicats, des enseignants, pour dire qu'une partie était intéressante, qu'une autre partie était beaucoup moins intéressante. On va se pencher, c'est l'actu, sur ce qu'a annoncé le président Macron, sur les réactions des enseignants et des syndicats. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants dans le chat et je vous salue. Sandrine 3000, merci pour le 20e mois d'abonnement, ça claque. Gandalf Listari, hello les modos, merci pour le 19e mois d'abonnement. Tiens, je vais vous saluer les modos, je ne vous ai même pas dit bonjour. Oh, vous êtes vachement, waouh. Brobo06, Captain McBernick, Francis, Gandalf, Listari, donc Julo18, salut les amis. MMG7F, Original Pimous, Petit Dragon, Verderage, Xineco. Vous êtes super nombreux. Merci, vous êtes super. Je vais vous faire bosser hein, ce week-end. Hein. Ce soir, l'Hebdo Etienne, demain soir, l'exposition Etienne, le samedi soir avec Rayou, en direct du musée du Quai Branly et... dimanche, je passerai une tête aussi Battlefort. Donc merci d'être là. Maxon FR, merci pour le 13e mois. AEG Taborne, merci pour le Prime. Et lisons cet article sur, au-delà des annonces du président qu'on va évoquer ce matin et les réactions, sur la question du temps de travail des profs. Temps de travail des profs. Il y a quelqu'un depuis tout à l'heure qui n'arrête pas de nous dire « je suis en live ». Alors c'est très intéressant comme info, mais ça n'a aucun intérêt en fait. Qu'est-ce qui t'arrive ? Voilà. Alors, voilà, c'est très très drôle. Voilà, c'est ton sixième message d'affilée. Bon, très bien. Je pense que tu vas te prendre un petit ban provisoire par les modos pour que tu arrêtes de nous dire que tu es en live. Voilà. Je pense que c'est un petit bot peut-être. Et donc là, le monde, merci, va nous permettre de réfléchir au temps de travail des profs parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues en la matière. Et il est temps un petit peu de faire le point là-dessus. Le temps de travail des profs, titre Le Monde, l'éternelle suspicion. Le pacte de Macron qui propose une augmentation contre de nouvelles tâches heurte la profession. Blacos, je vais très bien, merci et toi. En 2007, ce fut un slogan clé de la campagne de Nicolas Sarkozy dans sa course vers l'Élysée. Je pense que vous vous en souvenez. Travailler plus pour, vous connaissez la suite, pour gagner plus. 15 ans plus tard, cette logique se retrouve, estime Le Monde, au cœur de la grande réforme des rémunérations des enseignants, dont Emmanuel Macron devrait préciser les contours jeudi, donc c'était hier, et maintenant on a les annonces puisque l'article a été écrit avant au cours d'un déplacement dans l'Hérault. Pour les organisations représentatives des enseignants, c'est la logique même du projet depuis sa conception qui est inacceptable en proposant au-delà d'une part de revalorisation inconditionnelle des salaires, ce qu'on appelle le socle dans cette réforme, une part de rémunération variable, elle, liée à quoi ? À l'acceptation de nouvelles missions. Le président de la République semble partir d'un présupposé refusé par les enseignants, par la profession. Les enseignants disposeraient d'une réserve de temps de travail disponible. Je décrypte. Dans les annonces du président Macron pour les augmentations de salaire des enseignants, il y a deux choses. Il y a un côté socle, augmentation des salaires des enseignants sans condition. Voilà, qu'on va chiffrer tout à l'heure. Et il y a une partie variable pour les profs qui accepteraient des missions supplémentaires. Et selon une partie des enseignants et les syndicats, faire ça, c'est supposer que les profs aient beaucoup de temps disponible, sinon de temps libre pour ces missions supplémentaires, et donc quelque part, ils bossent pas tant que ça. Qui est un discours sur les profs qui est tenu par une partie de la population depuis très longtemps. C'est là-dessus qu'on va se pencher. Difficile de dire qu'on va mieux payer tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas prêts à davantage s'engager ou à faire plus d'efforts, avait dit le chef de l'État lors de sa campagne présidentielle, laissant entendre que le travail accompli par les enseignants français n'était pas suffisant. Un discours auquel les enseignants sont rompus, tant leur activité, bien avant que le président Macron en parle, fait l'objet de critiques et de suspicions. Vous savez, c'est le fameux discours, comme le dit Sim, de l'oncle bourré à l'apéro, mais pas seulement sur « Ah, les profs, les vacances, tous ces avantages qu'ils ont, des petites journées de travail, de grosses vacances, un salaire qui est tout à fait suffisant pour ce qu'ils bossent. Voilà. » Puis en général, tu dis au tonton « pourquoi t'es pas prof ?» En général, ça suffit. En général, ça suffit. Oui, pourquoi t'es pas prof ? Ça a l'air. Tu devrais. Voilà. En général, c'est fin de l'histoire. Mais bon, parlons un peu plus sérieusement de ce sujet. Tout le monde estime savoir ce qu'est le métier d'enseignant, dit une spécialiste que je vais citer. Pourquoi ? Parce que tout le monde connaît un enseignant. Tout le monde a été à l'école quand même. Hein, où on a connu un, alors même qu'une large partie du travail enseignant est invisible, ce qui alimente les représentations très partielles de leur activité. Hein. Qui est cette spécialiste que je cite ? C'est Géraldine Farge, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université de Bourgogne. Voilà. L'enseignement, dit-elle encore, est un métier multitâche qui va bien au-delà des cours. Hein. Dans une certaine représentation un peu simpliste du travail d'enseignant, c'est le prof, il travaille quand il est en cours. Oui, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je sais parce que je l'ai expérimenté moi-même. L'enseignement est un métier multitâche qui va au-delà des cours, préparation du cours, correction, les copies, où le temps de travail est diffus, déborde sur les soirées, déborde sur les week-ends. Puis il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Quand on y ajoute les tâches en dehors des heures de cours, la moitié des enseignants en France travaillent au moins 43 heures par semaine, selon une enquête qui a été publiée par la Direction d'évaluation de la prospective et de la performance au mois d'octobre 2022. On n'est pas sur les 35 heures, on est sur au moins 43 heures pour la moitié des enseignants. T'as été prof, Samuel, me demande 1, 2, 3, Lollipop. Très modestement, très modestement. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne pourrais pas faire ce métier. Quand j'étais jeune journaliste, plus jeune qu'aujourd'hui, on m'a proposé pendant une année d'enseigner les techniques rédactionnelles de presse dans une école de communication de journalisme. Voilà. Auprès de jeunes gens qui sortaient du bac, voilà, qui arrivaient dans cette école, qui était une école de communication, et je devais expliquer comment on écrivait un article, ce qu'était un titre, un chapeau, un intertitre, un sous-titre, comment était structuré un article, comment donner les informations. Bref, un cours de technique rédactionnelle de presse. Formidable, je trouvais ça cool de transmettre, d'être déjà connecté à une génération plus jeune que moi. Et j'ai très vite déchanté, parce que j'ai trouvé ça très très dur. D'abord, il a fallu que je prépare mes cours. Donc c'est vachement... À un moment, si tu veux pas être ridicule et automatiquement jugé par 20 ou 30 paires d'yeux qui se posent sur toi, qui vont capter tout de suite si t'as bossé, si t'as préparé, si t'as un truc intéressant à dire ou pas, voilà. Tu triches pas, c'est comme un chat, hein, et tu dis tout de suite quoi. Il faut que tu aies bossé un petit peu en amont, sinon tu vas vite comprendre que en gros les regards vont se détourner de toi, ils vont faire autre chose, hein, si t'as pas bossé, si t'as pas préparé, si t'as pas un truc intéressant à leur raconter quoi, un truc à transmettre, un truc à apprendre, voilà. Et puis une volonté à peut-être d'échanger après. Donc il faut avoir bossé en amont. Donc il a vu que je prépare tout ça, vachement de boulot. Après il faut donner le cours. Putain, là c'est crevant, hein. Capter pendant une heure, ne serait-ce qu'une heure, l'attention, là encore, de 20 ou 30 paires d'yeux, voilà. Et donc avec un propos à même de les intéresser pendant une heure, et aller chercher ceux qui sont un peu moins captivés, c'est intense et c'est crevant. Donc, du boulot avant, crevant pendant, et puis comme je voulais un petit peu vérifier ce qu'ils retenaient, je leur faisais des petites interros sur l'actualité, sur des trucs comme ça. Et après, il fallait que je corrige les copies, après. Ça me prenait une plombe. J'essayais de faire ça bien, de mettre la note juste et tout, puis d'encourager et tout. Une heure de cours, mais avec la prépa, avec le truc derrière, et puis les ateliers, les machins et tout. Putain, ok, j'ai découvert ce que c'était, quoi. Et puis merci, et puis après, j'ai rapporté tout ce travail-là à ce que ça rapportait. Voilà. Et en fait, je me suis dit, ah ben non, en fait. Ça m'intéresse pas trop comme taf, en fait. J'ai fait ça un an. Je m'étais engagé un an, et puis à la fin de l'année, l'école m'a dit bon, formidable, ça s'est bien passé. J'ai dit ouais, super, ouais. On continue? J'ai dit bah non, en fait. Hein. Moi, je vais rester journaliste plutôt, hein, parce qu'en vrai, c'est beaucoup moins fatigant, et puis c'est mieux payé. Voilà. Donc, voilà. Je parle d'un cas particulier. Peut-être que voilà, le travail d'enseignant, évidemment, est multiple et évidemment qu'on a tous des exemples en tête d'enseignants, soyons honnêtes aussi, hein. C'est comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont plus ou moins impliqués, hein, d'accord. Il y a des bons médecins, des mauvais médecins, vous en connaissez. Il y a des bons journalistes, des mauvais journalistes, il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. Bah évidemment c'est pareil pour les enseignants, mais quand même la réalité du métier c'est ça quand même, voilà. Et donc moi je le dis très très clairement, je ne pourrais pas faire ce métier, c'est trop de travail, c'est trop d'engagement. En plus, ça déborde effectivement sur le soir, sur le week-end, tout ça. C'est pas bien payé, hein. Et en plus, vous n'êtes pas considéré, parce que la position de l'enseignant en France, elle s'est dégradée, et depuis les instituteurs de la Troisième République et les hussards noirs de la République et à aujourd'hui, eh bien, la position sociale du prof, de l'enseignant et de l'instit s'est dégradée. Voilà, pour plein de raisons. Voilà. Alors bah merci, du boulot mal payé et mal considéré, bon bah je préfère faire mon métier, quoi. Bon, c'est mon regard, il ne vaut que ce n'est que mon expérience, mais depuis ce jour j'ai quand même beaucoup de respect pour les anciens, voilà. Et je pense que ça demande beaucoup d'engagement et beaucoup de passion et que c'est une forme de vocation, quoi. Voilà. Bon, ça c'est mon avis, après vous avez le droit d'être d'un autre avis bien sûr, mais c'est ce que j'ai vécu vraiment en le faisant, quoi. Et je trouvais que c'était intéressant de lire cet article qui justement en parle. Derrière la dimension chiffrée, donc plusieurs travaux sociologiques montrent effectivement une complexification en plus croissante du travail ces dernières décennies, dans et en dehors de la classe, donc un métier qui serait peut-être plus compliqué qu'avant, On y retrouve pêle-mêle la place du numérique, ce qu'il implique de tâches administratives, de communication permanente, les requêtes croissantes du ministère en termes d'évaluation, la place grandissante des relations avec les familles. Je pense que les profs sont plus, peut-être plus qu'avant à l'écoute de l'envie d'échanger des familles, effectivement, et ça prend du temps. Les missions et objectifs nouveaux assignés à l'école au fil des années, l'inclusion scolaire, hein, le fait que, et ça c'est super, de plus en plus de jeunes en situation de handicap qui sont dans un parcours scolaire classique, et ben, ça demande du temps et de l'attention aux enseignants, c'est super. Mais en gros, ben, on leur demande de faire plus avec les mêmes moyens, ou encore l'augmentation des effectifs de classe dans le second degré depuis 20 ans. Bah ouais, voilà, plus d'élèves dans les classes, bah, c'est plus de boulot. Sur le papier, François, par exemple, professeur d'histoire-géographie en collège dans le Val-d'Oise, ne fait pas plus d'heures de cours qu'il y a 10 ans, sauf que, dit-il, avant j'avais 25 élèves par classe, on est 30 maintenant. Voilà. Et donc c'est 5 ou 6 élèves de plus sur 5 ou 6 classes, donc avec une charge supplémentaire en termes de correction, de renseignement des bulletins et de suivi individuel. Voilà. Un suivi individualisé qui s'avère d'autant plus lourd qu'un nombre croissant d'élèves en situation de handicap, j'en parlais, est accueilli dans les classes ordinaires. Et ça, c'est formidable, mais c'est plus de travail pour les enseignants. Cette loi, donc je reviens à la loi Macron, aurait dû s'accompagner d'un allègement substantiel de la charge de travail des enseignants, puisqu'ils n'accueillaient désormais des élèves demandant plus d'attention. Or, c'est l'inverse qui se... Pardon, c'est pas la loi Macron. C'est la loi pour l'inclusion scolaire dont parle Le Monde, j'ai lu trop vite. Cette loi sur l'inclusion scolaire aurait dû s'accompagner d'un allègement substantiel de la charge de travail des enseignants, puisqu'ils accueillaient désormais des élèves demandant plus d'attention. Or, c'est le contraire qui s'est passé. C'est vachement intéressant. Voilà. Je finis l'article et je vous lis parce que je vois que ça provoque beaucoup de réactions. Même si le pacte enseignant, donc on va préciser dans un article, là, qu'est-ce que le président Macron a proposé aux enseignants, donnera lieu à une rémunération, les professeurs comme les sociologues spécialistes de la souffrance au travail s'inquiètent. Les salaires de base sont bas aujourd'hui, donc certains enseignants essaieront sans doute d'en faire plus par nécessité financière. C'est Dominique Cobareil, qui est maîtresse de conférence à l'Institut d'études du travail à Lyon, qui dit ça. Mais à force d'intensifier le travail, de travailler plus, soit les enseignants vont le faire moins bien, soit ils font peser les risques sur leur santé. Selon la dernière étude du ministère de l'Éducation, la moitié des enseignants déclarent déjà un sentiment d'épuisement professionnel élevé. À vous le chat. Qu'est-ce que ça raconte Maxence, merci pour le 13e mois d'abonnement et le 13e mois de café. Qu'est-ce que ça raconte ? Il y a Juge de Pomme qui dit « On est 35 dans ma classe en terminale, le bruit que font 35 élèves, je pense qu'il faut y être pour s'en rendre compte. » J'imagine bien. Exutoire qui dit « Les trolls du chat sont sortis, c'est pas beau à voir. » Bon, on va regarder ça. Sim HB, ça c'est des vrais trucs ça, du vécu. Ma tante est directrice d'école, elle se fait chier dessus, et par les parents, et par les profs, et par le rectorat, pour sa prime pas ouf. Et tonton Buzz qui est en colère. Non, le taf me déplairait sur plein de points, mais insinuer que tous les profs bossent comme des tarés, pitié non. J'ai pas dit que les profs bossaient comme des tarés, j'ai dit que les profs bossaient. Voilà. Et que j'ai pas dit qu'ils bossaient comme des tarés, j'ai dit qu'ils bossaient. Et que les salaires étaient pas forcément en rapport avec le travail. Il n'y a pas que des profs d'éco à l'université. Les profs de primaire ou de sport, ils ont pas la même charge de travail, on me la fait pas. Moi, je pense que les profs de primaire, ils bossent. Hein. Ça bosse. Ben, élément de démonstration dans cette équation, l'éducation nationale n'arrive pas à recruter. Il n'y a plus personne qui se présente au concours. Il y a des concours pour les postes. Il y a pas de candidats en face. Les gens ne viennent pas. Voilà. On est en dessous. Parfois, il y a moins de candidats que de postes. Donc, vous imaginez la sélection. Vous imaginez la qualité de la sélection quand il y a moins de candidats que de postes. C'est même plus un concours, en fait. C'est même plus besoin de le passer. Donc, si à ce point, le métier souffre d'un problème d'attractivité, c'est bien qu'entre le travail demandé et le salaire, il y a un problème par rapport à la société dans laquelle on vit. Vous voyez bien que s'il y a un problème d'attractivité, c'est qu'il y a bien un problème. Donc, on ne peut pas le nier, en fait. C'est impossible à nier, en fait. Les gens qui s'intéressent à ce métier, il y a une grande partie des gens, quand même, qui, à un moment, disent, bah non, en fait, oui, c'est un métier magnifique, mais ça ne va pas le faire, quoi. Donc, voilà. Je n'ai pas la solution, mais vous voyez bien qu'il y a quand même un problème. Il y a Didi Cartman qui dit, le bon salaire, c'est 5 000 ou 10 000 euros par mois? Alors, déjà, on n'est pas là, hein. Je crois qu'on est 2 000. Le salaire moyen en France, c'est quoi, 2 000 400 euros, je crois. On le verra dans un article tout à l'heure. Les enseignants, 2400, 2500 euros en moyenne. Donc, on n'est pas sur du 5 000 ou du 10 000. Non, le bon salaire, c'est celui qui fera qu'il y a des gens qui vont vouloir faire ce métier, en fait. C'est un marché d'offres et de demandes. Tout simplement. Hein. Hein. Le bon salaire, c'est celui qui donnera envie aux gens de faire ce métier. Voilà. Et ça, c'est vrai pour plein de métiers, d'ailleurs. Je lis encore quelques messages. Mais ça marche pas comme ça. Il y a Wave Quicks qui dit « La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de métiers plus difficiles, plus éprouvants et moins bien payés à penser avant l'épreuve qui n'ont pas à se plaindre comparé aux agriculteurs, par exemple. » Mais ça ne marche pas comme ça. Dans une société donnée, tu peux pas aller prendre le pire des métiers, le plus dur, le plus de fou, pour dire à tous les autres qui se plaignent, vous n'avez pas le droit. Parce qu'il y a, y a Roger qui est agriculteur qui n'en peut plus. C'est le taux de suicide par profession le plus élevé en France, agriculteur. Tu peux pas dire, tu peux aller partir Patrick qui est éboueur. T'as vu Patrick, vraiment il en chie quoi. Donc et dire bah du coup tous les autres qui se plaignent, vous pouvez pas, tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas t'aligner sur le pire métier aux conditions de travail et de salaire pour dire que tous les autres ont pas raison de se plaindre parce que dans ce cas-là c'est du moins-disant social quoi. Tu vois, tu peux pas utiliser cet argument. Ça ne marche pas. Le fait que les concours d'enseignants n'arrivent plus à recruter montre bien qu'il y a un souci. Voilà. Donc si tu veux que demain, il n'y ait tellement pas de profs que les classes soient de plus en plus surchargées pour tes enfants, si tu as des enfants ou si tu vas avoir des enfants, si tu veux que le niveau des profs baisse, parce que ben, du coup, en gros, comme plus personne ne veut faire ce métier qui est dur, ben, du coup, on prend les gens qui viennent. Et donc, du coup, il n'y a plus de sélection et le niveau baisse. Et donc, tes enfants, je reviens à tes enfants, vont avoir des profs qui sont de moins bon niveau et moins bien formés. OK, faisons ça alors. Puis à un moment, on dit, ah, mais je comprends pas vraiment mon enfant des profs nuls et tout. Bah ouais, mais c'est parce qu'en fait, on ne s'est pas posé les bonnes questions. Mais je suis devenu le défenseur des profs. Moi, c'est fou, ça. Incroyable, ça. Oh merde, il y a Nat qui dit « Samuel, je prépare le CAPES d'Histoire Géo, t'es en train de me décourager. » Non, ça reste un des plus beaux métiers du monde. Hein. Voilà. Bon, en fait, le chat, je le trouve cool. Quelqu'un me disait que les trolls étaient de sortie. En vrai, non, hein. De qualité, hein. Tu vois, il y a Deus qui écrit « Rien que pour corriger les devoirs de 15 élèves, et je ne parle que de 15 élèves, ça peut prendre jusqu'à 2 heures selon la quantité, multiplié par le nombre de classes, plus préparation de cours, plus tests, plus temps alloué à l'écoute de mes élèves étudiants, on dépasse facilement les 40 heures par semaine. » Je sais, je l'ai constaté. On a un raid du Japon, les amis. Il y a les amis des viewers de Citron Violet qui débarquent là. Voilà, merci Citron Violet. Allez voir cette chaîne Citron Violet sur Twitch. On se promène IRL au Japon et c'est top. Voilà, on est en train de parler du temps de travail réel des enseignants en France en disant qu'il était très sous-estimé. Merci aux gens qui nous rejoignent. Solbur, merci pour le 19e mois d'abonnement. Je n'avais pas vu, merci beaucoup. Cannibal Lecteur qui écrit « Le secteur de l'éducation est le pilier de tous les autres secteurs de notre société. Y investir 1 euro, c'est en sauver 10 euros. » Ouais, faut être costaud, ouais. Parce que t'as écrit prof, faut pas être fragile psychologiquement. C'est tendu comme métier quand même. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. C'est chaud. Hein. Et Nier Roche qui dit, dès que tu regardes, les trolls s'enfuient. Oh, trop bien, j'adore. 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 Enfin bon, bref, vous avez compris mon sentiment là-dessus. Après, ça n'est que mon sentiment, mais j'ai quand même, il y a quand même pas mal d'éléments factuels qui me donnent un petit peu raison, quoi, sur la situation des profs aujourd'hui. Merci encore à Citron Violet pour son raid. Bon, on va revenir sur les profs avec, hop, cet article dans quoi? Où est-ce que je l'ai trouvé, les annonces? C'est dans le Figaro? Oui, dans le Figaro, on viendra sur les annonces qu'a fait Macron là-dessus. C'est parti pour l'horoscope. Petite pause horoscope, ça va nous alléger un petit peu. J'irai faire un petit café aussi après. Horoscope, hop. Alors les nouveaux, vous savez pas ce qui se passe là. Les habitués, ils savent. Le principe de l'horoscope, c'est qu'on arrive sur la page horoscope du Parisien. Je dis ça très 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 vite. Le premier, la première à me donner son signe astrologique dans le chat quand arrive la page horoscope du Parisien, eh bien, je lui lis son horoscope. On n'y croit pas, ça n'est pas très scientifique, mais ça nous fait marrer. Et c'est Balance qui a gagné. C'est Lumi Loop. Salut Lumi, tu as fait gagner toutes les balances avec toi. Je parle du signe astrologique, bien sûr, pas de ceux qui dénoncent les gens. Putain, elle est nulle ma blague. Je lis le message de ton ami Babar. Bonjour à tous, désolé, je suis en retard, j'ai dû aller chercher mes lunettes de soleil tellement le stream de Samuel Etienne est brillant. Merci ton ami Babar. Bon allez, redevenons sérieux. Balance, c'est parti. Balance, cœur. Des soucis vous empêcheront peut-être de vous intéresser trop longuement à votre vie affective. Ok, c'est un horoscope de merde, hein. Des soucis vous empêcheront peut-être de vous intéresser trop longuement à votre vie affective. Oh là. Donc, tu as une vie affective qui n'est pas au top et tu as des soucis. Super. Réussite, ça peut-être s'arranger du côté du boulot. Une petite rentrée d'argent inattendue sera peut-être à l'ordre du jour. Super. Ok. Il y a un pote qui va taper qui dit hey, je n'oublie pas que tu as 2,50 €, je t'ai fait un virement. Super. Ouais. C'est pas l'euro million non plus, hein. Forme, faites du sport. Putain, là, l'horoscope qui se mouille, quoi. Oh, sérieux, quoi. Il pourrait faire des efforts. Bon, ça va, en fait, les balancins. Ouais. Il y a Biboulia qui dit, super, je suis prof et balance, c'est mon jour. Non, mais en vrai, vous faites un super boulot, hein. Force. Ouais. Tiens, tout en bas, je vous le lis jamais, mais il y a un truc qui s'appelle le baromètre de l'amour. Donc là, on est vraiment en mode scientifique, hein. C'est prouvé, ça, hein. Baromètre de l'amour d'horoscope du Parisien, c'est 100% vrai. Hein. Taureau, c'est moi. Épanouissement sentimental assuré. Lion, vos comportements inégaux agacent et sont source de tension. Les lions, au niveau de l'amour, c'est pas ça. Voilà. Bon. Baromètre de l'amour. Bon, les amis, 2h11, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Donc, je vais aller me faire un petit café. La bonne nouvelle, c'est que dans le nouveau studio de stream, hein, je suis sûr qu'il y en a qui ne savent pas, hein, ça, depuis 15 jours, là, ça, je loue un petit appartement à côté de la maison pour pouvoir streamer jour et nuit. Voilà, et notamment beaucoup à partir de la rentrée de septembre avec, je l'espère, de nouveaux projets qui vont arriver sur Twitch. Voilà, un peu moins envahissant par rapport à la famille. Et surtout pouvoir laisser le matériel, tout ça, et pas remonter, démonter sans arrêt pour chaque émission, ce qui me faisait perdre, ce qui nous faisait perdre beaucoup de temps. Donc le petit studio maintenant est là. Et la machine à café, elle est, bon, c'est un tout petit appartement, donc la machine à café, elle est juste à côté. Voilà, donc je vais chercher le petit café. Non, je ne me suis pas fait virer, Sandrine. Hélène est super patiente, et les enfants aussi, avec tout mon stream là, mais c'est juste que c'est moi, je trouvais que j'étais envahissant. Et surtout, ça impliquait de démonter, remonter sans arrêt les setups pour les émissions. C'était énormément de temps passé juste pour l'install technique. Et je préfère passer ce temps sur l'éditorial, sur les streams, plutôt que de monter et démonter sans arrêt tout, quoi. Les enfants sont pas tristes, les enfants ont les clés. Les enfants sont à quelques mètres, en fait, c'est à côté de chez moi. Et les enfants ont les clés. Et d'ailleurs, c'est bizarre que cela ne soit pas passé ce matin. Voilà. Avec la nounou. Peut-être qu'ils vont passer. Je sais pas. En tout cas, peut-être qu'il fait une petite sieste. Je sais pas trop. Donc les enfants ils passent. Bessu, quiz Pokémon, Malo, il est passé. Si, 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 tout ça se poursuit. Hein. Les enfants ils passent. Je vous mets une petite fenêtre de pause. Hop, ici. Je vous mets une petite musique, les abonnés. Et Et puis, une petite pub pour ceux qui ne sont pas abonnés, ça va me payer le café. Je vous retrouve dans 3 minutes, même pas. Si, 3 minutes. Et puis, on parle de plein d'autres articles sympas. Je vais vous quitter vers midi, midi 30. Hein, donc, on est encore ensemble pour un petit moment. Ok, c'est quoi la musique? C'est bien. Ah ouais, c'est super. C'est un groupe que j'aime beaucoup, ça. Ok, on se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite, bande de belles personnes. C'est super ça. Ouais, je danse bien, hein. J'arrive. Je vais faire pipi.
Berlin.
Ah non, ça c'est, ça, ça envoie du bois, ça. Ça va les amis, j'ai pas été trop long. Petit café, petit pipi, on est reparti. Voilà. Ah, on a fait l'horoscope ou pas, je sais plus. On me rappelle plus. Est-ce qu'on l'a fait? Allez, horoscope. Le mec a une mémoire de poisson rouge. Non, non, pas du tout, on l'a fait déjà, je sais. Oui, lavage de main, bien sûr. On est streamer, mais on... Fais attention à l'hygiène quand même. Château Lardon, merci pour le 18e mois. Aomin, merci beaucoup pour le 2e mois d'abonnement. Petit papier de Betty, merci pour les bits. Vous êtes formidables. Oh, Baptiste. Salut, je viens de finir mes cours, je pourrais avoir un petit résumé. Oh, Baptiste, sérieux. Baptiste. Non, c'est en replay. On a beaucoup parlé des conditions de travail des profs. On a parlé d'une amende, c'est vraiment pour toi Baptiste, d'une c'est pas une amende, d'un chèque de 700 et quelques millions de dollars que Fox News a accepté de payer à une boîte parce que Fox News avait raconté que du caca pendant la campagne présidentielle aux États-Unis, donc avec des fausses informations et tout. Et ça c'est bien. On a parlé aussi. Non, je te résume vraiment, beaucoup parlé de Twitter, de la fin de la vraie certification sur Twitter, et on a parlé aussi des déplacements du président Macron. C'est vraiment pour toi, hein, Baptiste. Hein. Oh, quelle idée d'aller en cours aussi. Quelle idée d'aller en cours, c'est pas possible ça. C'est les gens qui vont en cours. Allez, on lit le Figaro maintenant. Salut Maxime. C'est cool. Oui, je le fais le résumé parce que je suis un bon gars. Je suis un bon gars. Je suis un bon gars. Puis Maxime, puis Baptiste est allé en cours quand même. Voilà. Tiens, on revient grâce au Figaro à la fois au deuxième déplacement cette semaine, forcément un petit peu tendu, du président Macron, et aussi des annonces sur pour les profs, pour les salaires. En bras de chemise, je dis, ouais, bah, je vous aime pas bien l'article, peut-être qu'il faut que je vous montre. Voilà, je suis en train de dire le Figaro, pardon. En bras de chemise, nous dit le Figaro, on s'en fiche en fait qu'ils soient en bras de chemise ou en jogging, en vrai. Mais bon, il est en bras de chemise, ok. Jeudi, le chef de l'État est venu annoncer ce qu'il présente comme une petite révolution copernicienne. Bon, révolution copernicienne, c'est un truc important. Hein. C'est Copernic, Nicolas de son prénom, je crois bien. Ouais, c'est quelque chose, quoi. Peut-être pas exagéré, quand même. Mais enfin, le président Macron trouve que c'est une révolution copernicienne, ces annonces de meilleurs salaires pour les profs. Donc c'est les mots qu'il utilise. Des augmentations de salaire des enseignants, donc j'en ai parlé, on les caractérise de 100 à 230 euros net par mois à tous les niveaux de carrière, dès la rentrée prochaine et sans condition, c'est-à-dire sans travailler plus. Voilà. Donc ça, c'est pour le socle. Et puis, il y a une partie variable sur la base du volontariat. Les profs qui se montreront volontaires pour remplir des missions supplémentaires pourront toucher jusqu'à 500 euros par mois depuis 90. Il n'y a jamais eu une telle augmentation, dit le président Macron. Voilà pourquoi il parle de révolution copernicienne. On en a parlé tout à l'heure. Il y a une partie d'augmentation pour les profs sans qu'on leur soit demandé de travailler plus. Okay, et puis une partie qui est en fonction des missions qu'ils vont accepter. Alors justement... les réactions des enseignants et des syndicats à tout ça, c'est en bas à droite dans l'article du Figaro, eh ben, c'est froidement accueilli. Je zoome un petit peu pour mes petits yeux. C'est ici en bas à droite. Dans le cadre du socle, tous les enseignants vont donc être augmentés de 100 à 230 euros par mois, sans condition. Hein. Il n'y aura plus d'enseignants en dessous des 2000 euros par mois, a promis le chef de l'État. Avant d'insister sur le fait que l'augmentation allait concerner tous les niveaux de carrière, évolution par rapport au projet initial, puisque dans les premières moutures, seuls c'était surtout les premières moitiés de carrière, donc on va dire les plus jeunes enseignants qui étaient privilégiés. Donc c'est pour tout le monde. Ensuite, dans le cadre, non pas du socle, mais du pacte, les professeurs qui choisiront sur une base totalement volontaire de s'engager en plus dans des missions diverses, remplacements, investissement dans les dispositifs, devoirs faits, coups de pouce, etc., pourront toucher jusqu'à 500 euros par mois. On fait le pari qu'au moins un tiers des enseignants vont adhérer à ce pacte. Ça, c'est le pari du président. Ces annonces de l'exécutif ont été froidement accueillies par les syndicats. Évidemment, les 100 à 230 euros, on va les prendre. Mais si l'objectif était de créer un choc d'attractivité, on en parlait de l'attractivité insuffisante de ce métier en France, eh bien, on... On en est loin, déclare Sophie Vénétitec, que je connais, que j'ai déjà reçue sur France Info, qui est la secrétaire générale du SNES FSU, qui est le premier syndicat du secondaire. C'est surtout la partie pacte, donc vous l'aurez compris, qui concentre les critiques là, sur la base du volontariat, travailler plus pour gagner plus. La confirmation de ce pacte est une provocation selon les syndicats. Donc on en a parlé tout à l'heure, voici les réactions des syndicats. Voilà. C'est ça. Bon, on a parlé longuement tout à l'heure, on ne va pas refaire le débat sur les enseignants, mais maintenant vous avez les annonces. Il y a un truc dont je voulais absolument vous parler ce matin quand même, merci au Figaro, parce qu'il y a plusieurs articles ce matin, mais je trouve que l'article du Figaro est le plus complet, et je sais que vous allez compléter ces informations, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui suivent bien cette actu, c'est le décollage et l'explosion en vol de la dernière née de SpaceX, qui est la fusée géante de SpaceX, énorme, voilà. Vous le savez, hein, a explosé lors du premier vol d'essai. On va lire cet article, je remercie Fuel 2802 pour le 5e mois d'abonnement et Château Lardon pour le 18e mois. Succès en demi-teinte, c'est intéressant. Waouh, il y a Hugo qui débarque et qui balance 20 abonnements à la commu. Merci Eden Blaster. Merci de ton soutien, Eden, j'espère que tu vas bien. Donc, c'est intéressant parce que certains sur les réseaux sociaux ont dit hier, waouh, voilà, coup dur pour Elon Musk, c'est un échec, vous vous rendez compte, cette fusée a explosé, catastrophe et tout. Et puis le Figaro dit, c'est pas un échec, c'est un succès. C'est un succès, alors en demi-teinte, mais c'est quand même un succès. La fusée n'a pas rempli sa mission complète, mais elle a permis d'accumuler des données précieuses. Je lis et puis vous m'en parlez un petit peu. D'ailleurs, certains en sont convaincus. Il y a Anto qui dit « c'était magnifique, c'est pas du tout un échec ». Symbule, merci pour le prime. Est-ce un échec ou un succès ? Certes, la fusée géante Starship a lors de son premier vol jeudi explosé à une trentaine de kilomètres d'altitude au-dessus du golfe du Mexique, 4 minutes après le lancement, je pense que vous avez vu les images, bien avant la fin programmée d'une mission qui aurait dû se dérouler en fait sur 1h30, mais il s'agissait avant tout d'un vol d'essai à haut risque, avait prévenu d'ailleurs SpaceX, et l'issue de ce vol inhabité devait de toute façon être que le lanceur finisse au fond de l'océan sans tentative de récupération, objectif de ce lanceur qui est conçu pour être 100% réutilisable, puisque c'est un petit peu la révolution quand même qu'a amené Elon Musk dans cette industrie des fusées. Elon Musk avait prévenu avant le vol que si le lanceur n'explosait pas sur le pas de tir, donc au moment même du décollage, la mission serait déjà un succès. C'est un ingénieur qui s'appelle Nicolas Béran qui le rappelle, Nicolas Béran qui est la Société Astronomique de France. Certes, des points cruciaux de la mission, comme la séparation entre les deux étages, n'ont pas été atteints. Plusieurs moteurs sur les 33 du premier étage n'ont pas fonctionné. 33 moteurs. Mais la fusée a tout de même décollé et est montée à quelques dizaines de kilomètres d'altitude. Selon le point de vue, c'est donc un échec partiel ou un succès partiel. Donc, parmi les succès, le fait que les 33 moteurs de la plus grosse fusée jamais construite aient quand même été allumés. Je vais à la fin de l'article. Sur Twitter, Elon Musk, le fondateur de SpaceX, a félicité d'ailleurs ses équipes, assurant qu'ils avaient beaucoup appris pour un prochain vol d'essai dans quelques mois. Ça, ce sont les infos rapportées par le Figaro, et maintenant je vais vous lire. Anto, j'avais peur de ça, une explosion au décollage, mais non. Ouais, ça aurait vachement abîmé toutes les installations sur le pas de tir, donc effectivement, déjà en soi, c'est une bonne nouvelle. Alors, pas de tir abîmé quand même, et puis il y a Thunderbolt qui écrit, c'est clairement un échec, déjà on a vu que les Raptors, donc les moteurs qui sont d'une conception complexe, n'ont pas une bonne fiabilité, 6 moteurs en dysfonction sur 33, et la table de tir ruinée, pas de séparation, c'est un échec pour moi, dit Thunderbolt. Voilà. Bouteille à moitié remplie, à moitié vide. MEGCTF enchaîne, quand vous voyez l'état du pas de tir, il y a des choses à revoir. Alors, le cuisson du web, bah d'accord, le seul vrai objectif, c'est qu'elle décolle et qu'elle n'explose pas sur le pas de tir. Le reste, c'était du bonus. Brekezek écrit « Les concours de Kiki entre milliardaires, c'est quelque chose ». Alors pour le coup, je ne suis pas un fan inconditionnel de Musk, mais là, en vrai, il y a des vrais marchés derrière à gagner, le marché des lanceurs de satellites. Il y a énormément d'argent à se faire, donc ce n'est pas juste une histoire d'ego et de Kiki. C'est pour les gagnants de cette compétition, celui qui deviendra dominant sur le marché pour lancer les satellites. Il y a énormément d'argent à se faire. Je peux te dire qu'ils le font. Ils le font pas que pour leur ego. Hein. Et Musk a un peu cassé le marché, justement. Et si ce truc avait réussi à 100%, je peux te dire que tous les autres lanceurs, et notamment Arianespace, se seraient vraiment inquiétés, plus encore qu'ils ne le font déjà. Pourquoi tout doit être binaire, échec ou succès? Levevski, t'as raison. Fuel est en mode totalement philosophe. Il n'y a pas d'échec, que des expériences. Alors, Hugo dit, elle a été explosée, Samuel, ça change tout aux notions de contrôle. Oui. Oui, a priori, ils ont décidé de la faire exploser pour pas se la prendre sur la gueule. Donc, on peut pas quand même parler d'une bonne nouvelle en soi, quoi. Alors, certains parlent même d'un vrai succès. Je redescends sur le dernier message. The Voyageur, merci pour les bits. Saint Bull, merci pour le prime. Alors voilà, les gens, je savais, c'est l'intérêt de. Voilà, vous êtes 5000. Il y a des gens qui suivent un peu ces questions-là et qui s'y connaissent bien mieux que moi et sans doute que le Figaro. Il y a Thunderbolt qui écrit par exemple. Le point le plus inquiétant, c'est que les moteurs de Raptor, ce sont les moteurs full flow, très complexes, pas encore fiabilisés, très sensibles. Donc le fait que si moteur est pété ou ne soit pas allumé, c'est très inquiétant pour le programme Artemis. Le problème, c'est que plus tu as de moteurs complexes, plus tu as de chances d'avoir des soucis. Clairement, la fiabilisation va poser beaucoup de problèmes sur ce moteur. Manifestement, il y en a qui ont un peu bossé sur le sujet. Il y a ce boubou qui dit « Est-ce que tu relis le chat après pour voir les vannes que tu as loupées ?» Non, en vrai, j'aurais du temps, je le ferais. Parce que je pense que je manque pas mal de trucs sympas. Mais je manque de temps dans ma vie, donc je le fais pas. Quel est le tarif pour amener un satellite, dit Flo, dans le chat? Question hyper intéressante, parce que du coup, le pari de Musk, lui, c'est en fait de faire tellement baisser le coût pour emmener un satellite, y compris des gros, parce que là c'est une énorme fusée, dans l'espace, qu'il va casser le marché en fait. Et c'est la crainte de tous les autres opérateurs. Quoi. Mais si Musk réussit son coup, il va, pour le coup c'est le cas de dire, il va vraiment baisser le prix pour emmener des satellites dans l'espace. Quoi. Il y a Hugo qui dit « On n'en peut plus des démagos, mais je n'ai pas vu ton message d'avant. » Du coup, c'est à propos de quoi, mon ami, tu dis démagos? Parce que là, on parle de fusée. J'ai la ref. Il y a Cannibal Lecter qui dit « Vous avez créé des raptors ?» J'adore. Je l'ai. John nous explique que c'est le processus habituel chez SpaceX, beaucoup de tests et on s'attend aux échecs pour faire évoluer le produit. Alors il y a Triste Cire qui écrit c'est le vaisseau qui est censé faire atterrir des humains sur la Lune quand même. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il y a, des articles que je ne vous ai pas mis ce matin dans la revue de presse, mais qui posent la question de la sécurité pour demain des astronautes. Et c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, Disons que aujourd'hui, on est très très loin de pouvoir assurer la sécurité d'humains, quoi. De plusieurs à me parler d'écologie, il y a The Archie qui écrit ça, même si le décollage est une réussite d'un point de vue technique, il ne faut surtout pas oublier les dégâts occasionnés à la faune sauvage aux environs du pas de tir. Vous êtes plusieurs à dénoncer la dimension écologique en fait de ces lancements. Ouais. Voilà. Bon, bah suivons en tout cas. Sans compter qu'effectivement ça finit en mer après, hein, tout ça là. Voilà. Sur le côté sécurité pour les astronautes demain, Tonito le facteur, c'était un premier lancement. Ils vont en faire plein d'autres jusqu'à ce que ce soit safe, comme pour les Falcon 9. Ils ont fait exploser des dizaines avant d'envoyer des gens dans l'ISS avec. Ouais. Bien sûr. Voilà. Mais Des Nastro écrit, et c'est repris dans un article dans La Croix ce matin, ou Parisien, je ne sais plus, le Starship est le vaisseau le plus dangereux jamais conçu concrètement. Dangereux pour des gens qui pourraient prendre leur place dedans, quoi. Il en pense quoi, Tintin derrière moi, me dit-on? Eh bien, il en pense du bien. Voilà. Il est très content qu'on lise les journaux. Allez, après, on enchaîne. Donc, voici La Croix dont je vous parlais, avec un sujet évoqué par plusieurs journaux ce matin, Le Figaro, qui met ça en sa une aussi, mais c'est l'article de La Croix que j'ai trouvé le plus complet, le plus clair sur ces expulsions massives de qui ? De clandestins qui se préparent à Mayotte. C'est l'opération Wambushu, plus vaste plan de lutte contre l'immigration clandestine jamais lancé à Mayotte, qui pourrait démarrer dans les prochains jours. Quand et si vous allez voir, ça se passe dans les prochains jours, eh bien vous penserez à cet article qui donne un petit peu le cadre de ce qui va se passer. Je trouve que l'article de La Croix est très très bien fait, c'est page 8 si ça vous intéresse. Elle n'est toujours pas officielle, mais elle est imminente, proposée par Gérald Darmanin, donc c'est le ministre de l'Intérieur, et validée par le président Macron lors d'un conseil de défense, comme l'a révélé Le Canard Enchaîné, c'était en février. Eh bien, l'opération Wambushu devrait être la plus vaste jamais lancée à Mayotte contre l'immigration clandestine, un phénomène particulièrement important puisque la population de Mayotte dépasserait 350 000 habitants alors que l'INSEE n'en recense que 256 500, donc ça nous fait de l'ordre de 100 000 personnes en situation irrégulière. Avec le renfort de plus de 500 effectifs des forces de l'ordre qui s'ajoutent aux 700 déjà sur place, il s'agit de quoi ? De démolir près d'un millier de cases en tôle, sur les 30 000 qui composent les nombreux bidonvilles où s'installent les nouveaux arrivants et de procéder de très nombreux contrôles d'identité dans le but de renvoyer massivement les clandestins vers les Comores, d'où viennent la majorité d'entre eux. À quelques heures du démarrage des opérations, ce serait imminent. Shitsu 90, merci beaucoup pour le Prime. De nombreuses questions se posent, nous explique La Croix, commencer par celle du devenir des personnes délogées. Daniel Gros, qui est le correspondant de la Ligue des droits de l'homme à Mayotte, déclare « S'ils détruisent 1000 cases, eh bien ça va faire 5000 personnes à la rue. » Beaucoup de familles dans ces bidonvilles, vous voyez une photo ici, on est près de Kungu, là, à Mayotte, avec des situations qui sont parfois complexes, qui sont parfois mixtes, qui sont parfois embriquées. Il y a des personnes dans une même famille qui ont des papiers, d'autres qui sont en situation irrégulière, d'autres qui ont des enfants nés ici, et qui ne sont donc pas expulsables. Deuxième interrogation, les autorités sont-elles en mesure de réaliser autant de reconduites à la frontière que nécessaire ? Le gouvernement des Comores, hein, qui a décidé à la France de renoncer à son projet, va-t-il accepter de reprendre ces personnes ? La majorité des gens qui sont reconduits par ailleurs reviennent, dit une personne interrogée par La Croix. Pour contrer ces retours, l'État français a déjà accentué ses moyens de surveillance, interception en mer, surveillance aérienne, radar terrestre. Pour l'opération Divise, le syndicat local de la magistrature, un certain nombre de soignants et la Commission nationale des droits de l'homme l'ont dénoncé, mais elle est très majoritairement soutenue par les élus locaux, hein, les élus de Mayotte, qui font le lien entre cette immigration clandestine, massive, et une violence qui est devenue endémique, grave problème de violence à Mayotte. Près d'un Mahorais sur cinq déclare avoir été déjà victime d'un vol ou d'un cambriolage, soit quatre fois de plus qu'en métropole, par exemple. En attendant, beaucoup redoutent le risque d'émeute. On entend dire qu'il va y avoir des révoltes, dit Romain Rey, que j'ai fait parler tout à l'heure. C'est qui Romain Rey ? Qui est... Faut toujours savoir qui parle. Romain Rey, c'est le directeur d'une association qui s'appelle Forum Réfugiés COSI, donc qui craint des émeutes. On entend dire qu'il va y avoir des révoltes. Du coup, tout le monde se barricade. Tendu, tendu, a priori dans les prochains jours. Vous le verrez sans doute dans l'actualité des prochains jours. Voilà à peu près le cadre. Est-ce que certains connaissent un peu la situation ou pas ? Et même GCTF parle de la pauvreté, de la violence très présente à Mayotte à cause de cette instabilité. Oui, alors, merci MMGCTF qui rappelle un petit peu le contexte. Merci à toi. On rappelle que Mayotte est une île de l'archipel des Comores, donc, géographiquement parlant, mais qui est la seule à avoir voté contre l'indépendance vis-à-vis de la France. Donc Mayotte a souhaité rester dans le giron de la France, et ce qui a engendré une forte migration des Comores, le pays, vers Mayotte, la France, voilà, dans l'espoir de connaître une vie meilleure, quoi. Merci MMGCTF pour ce rappel qui est important. Et ils vont aller où ? Eh ben, l'idée, c'est à Johanna Verde, dans la tête du gouvernement, de les renvoyer justement vers les Comores. Ah, c'est intéressant. Il y a l'Extravie qui signale un reportage d'un ami, d'un confrère qui s'appelle Jamel Mazi, qui a fait un très bon reportage sur Mayotte-Comores récemment sur France 2. Mayotte-Comores, les sœurs ennemies. Attends, on va essayer de le trouver parce qu'en vrai, je le connais, Jamel, c'est du super boulot. Mayotte, on va essayer de le voir. Mayotte. Comores, peut-être pour essayer de mettre un peu plus de sens sur ce qu'on est en train de dire. Les sœurs ennemies, ah, je vais essayer de le trouver. Ah, mais il fait une heure. Ah, il fait une heure. Il fait une heure. Peut-être le début.
Un territoire en cercle.
Ouais, c'est bien la voix de Jamel Mazi, je le reconnais. Je vous mets dans le chat le lien, parce qu'on va juste regarder le début, évidemment, on va pas tout regarder. Je vous mets le lien de ce doc, c'est plus qu'un reportage, hein, il fait une heure. Je vous mets le lien, je vous le colle. Voilà, vous irez le voir après, ça a l'air sympa. On regarde le début quand même.
Cerclé par l'un des plus beaux lagons du monde. Une immense barrière de corail préservée. Longtemps, un obstacle mortel pour les navigateurs. C'est un bout de France en plein cœur de l'océan Indien. Dans ce nouvel épisode, avec Damien, Nicolas et Christophe, nous partons au large de l'Afrique au sud de l'Équateur pour explorer une frontière. Elle est maritime. Elle sépare Mayotte de l'Union des Comores. Une frontière entre la France et l'Afrique. Mais derrière cette image de carte postale, la réalité est bien différente de part et d'autre de cette frontière. Deux sœurs ennemies se font face.
Putain, ça donne trop envie de le regarder. Jamel, on vient de le voir à l'instant, là. Jamel Mazi, c'est le jeune homme, là. Ah, zut. Je voulais vous le montrer, Jamel. C'est un super journaliste.
40 km de long,
tant pis.
Sur 20 km de large.
Il joue sur la plage au foot, c'est un tournoi.
Non, bah c'est lui. C'est le jeune homme là, qui est à gauche.
Ah, il joue à la cadre idyllique. Hein.
Ouais. Mais sur la plage de Sangadois, dans le nord de Mayotte. C'est beau, hein.
T'as vu les limites, hein. Il y a côté forêt et côté mer. Hein. Viens, regarde deux secondes.
Il y a une faute, là.
Oh là, jamais, wow.
Je le connais, le cadreur, le journaliste. C'est un grand reporter de France Télévisions qui fait du super boulot. Bon, avec la casquette, j'ai eu un doute, mais il est allé plusieurs fois en Ukraine, notamment. Voilà. Donc, et son nom m'échappe. Putain, je connais que lui. Est-ce qu'il y a son nom là ? Non, je ne l'ai plus. Bon, alors on ne va pas regarder. Dommage, parce que en vrai, j'aurais eu du temps. Là, on serait regardé. Ce travail, parce que à mon avis, c'est super. Je vous remets le lien. Christophe Kenck, comment vous savez ça, vous ? Oh là là, il y a ML Reporter qui vient de reconnaître Christophe Kenck. Oh là 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 là, vous êtes des champions. Putain, la qualité du chat, quoi. Oh, vous êtes des fous. Ouais, bravo. Oh, incroyable. Meilleure mémoire que moi. Bon, je vous ai mis le lien. En vrai, ça a l'air du super boulot. Voilà. Bravo le service public. Watitoto, merci pour le Prime. Fezavo, merci pour le 12e mois. Et bien, je vous renvoie à mon avis à ce documentaire qui a l'air très très bien, que certains ont vu et dont vous m'avez dit du bien pour comprendre un petit peu ce qui se passe aux Comores, à Mayotte, comme donc en parle cet article dans La Croix, puisque manifestement, et bien, dans les prochains jours, expulsion massive, quoi. Voilà. C'est déjà fini ? Ah bah oui. Ah bah ça tombe bien. Ah, ça tombe bien parce que 2h46 de stream, et puis ça tombe bien parce que après-midi chargé, l'ami Joe vient cet après-midi là à 16h à la maison pour tout installer bien, faire des petits réglages sur la lumière pour continuer à tout améliorer sur l'hebdo Etienne. Je vous rappelle la line-up de tout à l'heure là. On va se régaler. Donc à partir de 20h ce soir jusqu'à 23h, on revient sur l'actualité de la semaine. On va parler de la situation du président Macron. On va parler de, justement, faut-il une nouvelle loi en France sur l'immigration ? On va parler de la fermeture de la Web TV, le stream. On va parler de la nouvelle hype des jeux de rôle et aussi de Twitter, royaume de la désinformation pour interrogation, avec AlphaCast, le streamer, avec Constance Villanova, la journaliste indépendante, avec Thierry Moreau, le journaliste, qui est un habitué comme Constance de cette émission, et avec Thomas Desseur, dont c'est la première fois, comme AlphaCast d'ailleurs, on va se régaler. Donc, il y a l'ami Joe qui vient à 16h ici pour continuer à puisqu'on a un nouveau outil maintenant, qui est ce petit studio de stream, régler images et sons pour que ce soit propre. Là, j'ai un rendez-vous chez le docteur, j'ai une vie patiente à 14h, petite visite de routine pour s'assurer que les poumons sont au top du top parce que j'ai pas mal toussé ces dernières semaines. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Puisque j'ai décidé de reprendre ma vie en main, et notamment mon petit ventre, mon petit bedou là, parce que j'ai un peu fait du gras depuis 7 mois. Voilà ce que c'est de streamer, de faire moins de sport. Eh bien, je reprends le sport et je vais aller faire un... Non, je vais pas faire du... Ah non, le gainage, je peux pas. Le gainage, j'en faisais quand je courais beaucoup, là, parce que t'es obligé. Je déteste le gainage, c'est chiant, ça. Déteste. Non, je vais aller courir. J'ai mon petit sac, là. Tout est prêt. Je vais aller courir après le docteur, après l'ami Joe, après l'hebdo Étienne. Demain soir, 20h, samedi, on va au musée du Quai Branly avec Étoile pour l'exposition Étienne. On va faire... 5, 4, 3, 2, 1. Ok, tout le monde est revenu. Alors, on raid, on ne peut pas parler d'une petite chaîne. On va raid le stream, hein, l'émission, hein, le stream, voilà. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est officiel, hein, c'est bientôt terminé, voilà. C'est une belle aventure, je vois que des gens que j'aime bien, là, je vois notamment... Qui je vois, là ? Mais c'est oui ? Mais il est là ou pas ? C'est Pépé Garcia qui est là ? C'est Pépé qui est là ? Quoi, c'est des redifs ? Ah non, ah bah ben non ! Ah non, c'est une rediff ! Ah, je pensais que c'était... Normalement... Ah non, c'est une rediff, c'est naze. Oh, je... bah non, ah bah non alors. Ah bah on recommence. Ah bah non, j'annule. Oh, dommage. Comme j'étais sur la fin. Comme j'étais sur la fin, je voulais les raids. Ah, je trouvais ça cool, en fait, de leur envoyer ce petit message. Ah, c'est dommage. Ok. Ah, zut, zut. Alors peut-être, peut-être qu'il y a des streamers de le stream qui sont live. Je crois que oui. Ah 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 ah, grâce à vous j'ai trouvé. Ok, j'ai trouvé. Alors on va aller voir une streameuse qui est l'un des piliers justement de la chaîne. Voilà, pour le coup, il y a du monde, hein. Ils sont 3000 déjà. Voilà, voilà. C'est Lady Sunday pour ceux qui cherchent. Voilà, la streameuse qui est en live actuellement avec Super Zulu. Voilà, qu'on retrouve aussi sur le stream. Voilà, c'est une façon aussi de leur envoyer de la force et leur dire tout le bien que je pense de leur travail. Voilà, je charge le raid. Merci les amis. Envoyez-leur plein de gentils messages. Voilà, je suis sûr qu'ils vont vivre d'autres belles aventures en stream. Voilà. Mais là d'ailleurs, ils sont en live actuellement. Lady Sunday pour ceux qui cherchent. On se retrouve à partir de 20h ce soir sur ma chaîne, bien sûr, pour l'hebdo Étienne. Prenez soin de vous. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous et on se retrouve tout à l'heure à 20h. À tout à l'heure et bon week-end. Quel jour on est ? Ouais, bonne fin de semaine. Ciao, ciao.